des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir.
Martino.
Richard Martino.
Politiquement incorrect. Incorrect.
Cube Radio.
Bonjour, bon mercredi, merci d'écouter Politiquement Incorrect et Cube Radio. Savez-vous quel est le point commun entre David Letterman et Benoît Dutrisac? Il y a un point commun entre les deux. Ils adorent tous les deux avoir des studios hyper climatisés, congelés où on gèle. Alors, David Letterman était reconnu pour ça. D'ailleurs, il y a plusieurs de ses invités qui se plaignaient. C'était très, très froid dans le studio où il faisait son talk show. Et lui, c'est lui qui le demandait. Il disait, parce que ça raffermit les chairs, ça te réveille. Tu sais, quand c'est trop chaud dans un studio, t'es mou, t'animes mou. Alors que quand c'est froid, je pense que Dutrisac est comme ça. Parce que moi, je suis Benoît tout de suite après son show. Puis je rentre tout le temps dans le studio. Ma première affaire que je fais, c'est de monter le chauffage. Benoît, on gèle dans ton studio. Je sais pas c'est quoi, il a peur de s'endormir s'il fait trop chaud. Il fait comme moins 15 quand je rentre dans le studio. Là, je t'ai grimpé ça à 22. Là, on est bien, je suis un petit frileux. Alors, je suis tout fourré concernant la COVID, comme vous. Je suis tout fourré. Écoutez, aujourd'hui, la preuve là, qu'on nage en pleine contradiction depuis des mois. Regardez aujourd'hui, c'est assez ironique. D'un côté, il y a les pédiatres qui disent « faut arrêter avec le 2 mètres entre les enfants ». Ça n'a pas de bon sens. La distanciation sociale entre les enfants, c'est complètement ridicule parce que les enfants ne sont pas contagieux de toute façon. Ce ne sont pas des propagateurs du virus. J'ai entendu ça. Hein. J'avais interviewé un journaliste qui nous disait que l'Institut Pasteur, c'est pas rien, l'Institut Pasteur avait dit que les enfants n'étaient pas contagieux. Il n'y avait aucun problème. Donc, on arrête la distanciation sociale. Ça, c'est un texte. Puis tu pognes le devoir. Et qu'est-ce que tu lis? 9 élèves d'une même classe infectés au coronavirus. 9 élèves d'une classe de l'école Louis de France à Trois-Rivières ont été infectés après qu'un enfant a été contaminé en côtoyant un cas positif dans la communauté. Ben donc. Donc, les enfants l'attrapent. Puis les enfants le donnent. Donc, il faut respecter le 2 mètres. Qu'est-ce qu'on... Je comprends pas. Je ne comprends pas. J'entends des gens qui vivent en Suède. Il y a eu un texte dans le New York Times, un grand texte, je pense cette semaine aussi, Sophie Durocher, ma compagne, qui interviewait un professeur québécois qui vit en Suède. Et ils disent, ça va super bien, le déconfinement, c'est extraordinaire, ils ont vraiment bien fait, puis eux autres, ils ont décidé de continuer quand même à avoir des cours dans des classes, de pas fermer les classes, de pas fermer les commerces, etc. Et ça fonctionne bien, puis là, aujourd'hui, tu regardes la télévision, puis qu'est-ce que tu vois? Le monsieur Arruda, l'équivalent de monsieur Arruda de la santé publique en Suède, ils disent que finalement, ça n'a pas fonctionné. Le déconfinement, avoir su, il n'aurait pas fait... Blin! Je suis fourré ben raide. Êtes-vous comme ça, vous autres? Là? On lit des affaires, puis les scientifiques se contredisent. Ils disent une chose et son contraire. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, les gens s'accrochent à toutes sortes de théories débiles en disant, mais regardez, de toute façon, il ne faut pas croire les médias. Ils n'arrêtent pas de se contredire. Mais en tout cas, c'est assez compliqué. Vous savez comment j'aime le régime chinois. J'adore le régime chinois. Je ne parle pas des Chinois, j'ai rien contre les Chinois. Le régime chinois, ben là, tu parles, par exemple. Alors, je vous avais dit, hein, c'était Global News qui avait sorti le réseau Global, comme quoi ils avaient attendu plusieurs semaines en Chine avant d'alerter la communauté internationale comme quoi ils avaient une grosse épidémie. Pourquoi? Parce qu'ils avaient dit à tous leurs ressortissants, à tous les associations de Chinois, de gens d'origine chinoise, etc., un peu partout à travers le monde, d'acheter le maximum de masques et d'envoyer ça dans la mère patrie. Bref, pendant 6 semaines, ils n'ont rien dit. Ils ont passé à grade, ils ont acheté plein de masques. Une fois qu'ils ont eu plein de masques en Chine, puis qu'ils étaient préparés, là, ils ont dit aux gens, on a un problème là, d'épidémie, puis ça peut s'en aller chez vous. Bon, je vous avais dit, ce gros reportage-là de Global News, qui a fait quand même un certain choc. Là, c'est un autre reportage que j'ai lu. Alors, imaginez-vous que, vous savez que c'est la course au vaccin. Et là, il y avait 3 laboratoires en Chine qui ont, décodé le génome, là, le code génétique du virus. Parce que pour faire un vaccin, il faut que tu décodes le code génétique du virus. Ils l'ont décodé. Ils ont attendu plus d'une semaine avant de partager ces résultats-là avec la communauté scientifique internationale. Parce qu'habituellement, la tradition, c'est que tiens, surtout en cas de pandémie mondiale, il y a un laboratoire qui réussit à décoder finalement, là, à faire la cartographie génétique du virus. Bien, tout de suite, tu donnes ça aux autres, puis là, on part, puis on recherche un vaccin. Ils ont attendu plus d'une semaine avant de partager les résultats avec le reste du monde. Ça, c'est un gros reportage avec une douzaine d'entrevues de gens anonymes qui ont parlé, bien évidemment, parce qu'ils ont peur de se faire foutre en prison. Et pourquoi ils ont attendu? Bien, c'est très simple. Parce qu'ils voulaient avoir une longueur d'avance sur tous les autres pays pour pouvoir faire le vaccin avant tout le monde, pour pouvoir se racheter, pouvoir redorer leur image auprès de la communauté internationale. Regardez, nous, la Chine, c'est nous qui avons fait le vaccin. Donc, ils ont attendu pendant plus d'une semaine avant de partager ces données-là, qui sont des données extrêmement importantes. Bravo. Si vous nous écoutez de l'extérieur de Montréal, venez pas en ville. Venez pas en ville, c'est fou. C'est pire que jamais. C'est fou. On le savait avant, là, les cônes oranges, les travaux, puis tout ça, c'était complètement délirant. Mais là, les travaux ont repris. Et en plus de ça, la ricaneuse, comme dirait Gilles Proulx, la ricaneuse, la mairesse Valérie Plante, à tripes, à la barre des rues. Ils ont vraiment des tripes particuliers dans ce parti-là. Hein. Il y avait Luc Ferrandez, lui se réveillait dans le plein milieu de la nuit, puis allait changer la direction des rues sur le plateau. Ça te faisait triper. Il prenait la flèche, puis il changeait ça. Puis là, il y a une rue qui descendait, puis non, elle montait. Lui, il tripait bien raide là-dessus, je sais pas. Elle, c'est de fermer des rues. Oh, c'est comme enlever des places de stationnement, c'est son trip, ça la fait jouir. Chaque place de stationnement qui est enlevée, elle a un petit buzz. OK? Et là, ça n'a plus aucun Christy de bon sens. En ville, ça n'a aucun. Tu peux stationner nulle part. Je lisais un tweet de Jean-Michel Dufault, que vous connaissez bien. Jean-Michel Dufault, chroniqueur, grand voyageur. Il disait qu'il voulait, lui, tu sais, on le dit, acheter local. Acheter local, faut acheter. Lui, il dit, regarde, je vais aller encourager un commerce plutôt qu'acheter en ligne. Je vais aller encourager un commerce. Donc, il voulait aller encourager un commerce sur Laurier-Est à Montréal. Pendant une demi-heure, il a roulé. Pas de place de stationnement. Impossible. Non seulement sur Laurier, mais les autres rues, impossible. Parce qu'il dit, pendant ce temps-là, moi, je brûlais du gaz. Là. Tu sais, la ricaneuse écolo, là, pendant ce temps-là, moi, je brûlais du gaz à effet de serre. Fait que finalement, ben, il n'a pas pu acheter local. Je ne sais pas ce qu'il a fait, il est rentré chez eux après ça, puis il a commandé son affaire sur Amazon, mais bref, c'est le délire total à Montréal. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Martino, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
Comme à chaque matin, nous allons parler d'économie aujourd'hui avec Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Yves!
Bonjour Richard.
Écoute, après Aldo et Reitmans, il y a un autre détaillant québécois qui se retrouve en difficulté maintenant.
En fait, on disait au début, là, ça va bien aller, mais j'ai l'impression que ça va aller plus mal avant d'aller bien aller. Là. Écoute, le plus grand détaillant, dans le fond, québécois, dans le secteur, justement, de l'équipement sportif, là, qui est Sale, là, plein air.
Okay.
C'est qu'il détient 14 magasins sous l'enseigne Sale, évidemment, mais aussi Sportium, là, qui avait beaucoup investi, là. Ben là, comme toutes les autres, doit se mettre sous se protéger contre les créanciers. Écoute, même le président ce matin, là, c'est quand même intéressant quand il dit « nous ne sommes jamais totalement prêts à ça ». Puis là, tu sais, t'as la tempête parfaite. Tu sais, l'idée de, un, d'abord, tu sais, il y avait plus de compétition dans ce secteur-là par les étrangers, le commerce en ligne par les fameux GAFA qui payent pas de taxes. Puis tu rajoutes la pandémie par-dessus ça, c'est normal que tu vas perdre, tu sais, en 8 semaines, il a perdu presque 40% de 40 millions de dollars, tu sais. Fait que, puis pourtant, c'est lui qui avait lancé le cri d'alarme en disant, pourquoi qu'on laisse les Walmart puis les Canadian Tire ouverts, tu comprends-tu, alors qu'on permet pas aux commerçants, pas aux détaillants québécois d'être ouverts? Ben, tu vois, c'est, ça, c'est une des conséquences. Puis tu sais, il y a quand même 1800 personnes qui travaillent chez Sales. Puis tu sais, quand tu fais le décompte là, depuis, je regarde le Aldo, Rittman, Sales, puis peut-être d'autres qui s'en viennent, tu sais, c'est plus que 4000 emplois là, qui ont été directement touchés au cours des dernières semaines.
C'est énorme, là.
Écoute, puis là, tu sais, on a eu quand même des nouvelles un peu de Simons récemment. Tu as eu la baie qu'on ne sait pas toujours qu'est-ce qui va se passer. Donc, c'est toutes des mauvaises nouvelles. Puis, bien évidemment, on va voir, mais peut-être le commerce de détail qui va recommencer à un moment, mais mettons que c'est très fragile.
Ben oui, écoute, tu sais, avant la réouverture des librairies aussi, Renaud Bré était en très grande difficulté financière. Je ne sais pas là maintenant comment ça va, mais c'est certain que ça sera plus jamais pareil. Là. Il y a vraiment des entreprises qui vont malheureusement avoir la difficulté à passer à travers. Les Molson aussi, ça va mal, hein?
Molson? Non, parce que les Molson, tu sais, moi, je me rappelle tout le temps de les entendre à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, tu sais, comment ils ont participé au développement économique de Montréal. Bien, maintenant, c'est drôle, on a la difficulté à leur parler quand il arrive des mises à pied comme ça, là. Ils sont frappés de deux endroits. D'abord, évidemment, tu sais qu'ils ont déménagé la nouvelle usine d'embouteillage qui va être à Longueuil. Et tout ça a amené, évidemment, à l'automatisation. Donc, ils vont couper presque 188 postes compte tenu de cette automatisation-là. Et ce qui est fascinant, c'est que, tu sais, c'est une dégradation, là. Parce que tu te rappelles, le géant mondial de la bière Molson Coors, là.
Oui.
A été la fusion de Molson ici à Montréal il y a 15 ans. Mais depuis ce temps-là, là, nous autres, on avait tenu en janvier dernier tout l'organigramme de Molson qui démontrait là que déjà là il y a presque plus de dirigeants au siège social ici à Montréal, tout est à Chicago.
Ah oui.
Tu sais, fait que aujourd'hui là Molson est un peu l'ombre de lui-même à Montréal là. Et donc je pense qu'il et si je rajoute à ça le CH, tu as vu quand même ou hier aussi que les autres aussi ont annoncé dans le groupe du Canadien de Montréal des coupures. Déjà, ils avaient annoncé qu'ils avaient réduit de presque 60% leur personnel.
Et ça va pas bien.
Ils coupent ailleurs. Et donc, c'est sûr que les Molson sont directement touchés là, par la pandémie. Et donc, mais ça, c'est encore des mauvaises nouvelles pour Montréal.
Ben oui, pourtant, on a bu, hein. On a bu pas mal pendant la pandémie, pendant le confinement.
Ben, ça a l'air qu'on... Pas juste de la bière.
Ben, c'est ça.
Pas juste de la bière.
Je pense qu'on buvait du vin plus que de la bière. tu veux nous parler de le secteur de l'hôtellerie aussi qui demande de l'argent, de l'aide?
Écoute, c'est un secteur là, qui ont jusqu'à date ont très peu été aidés par l'État là. T'sais, quand tu regardes le nombre d'emplois qui sont dans ce secteur-là, là, t'sais, dans le fond là, c'est 10 fois, tu comprends-tu, les emplois au Cirque du Soleil. C'est 3 fois plus que Bombardier. Écoute, il y a 42 000 emplois directs qui sont par les hôtels au Québec. Tu as 500 grands hôtels au Québec qui actuellement là, sont obligés de maintenir les services essentiels, mais qui sont pas aidés. Et écoute, eux autres, ils réclament 550 millions. Ils disent que de plus en grands hôtels là, ne vont jamais repartir d'ici décembre, parce que oublie pas, tu sais, les restaurants peuvent faire partir, puis tu vas avoir des Québécois qui vont aller, tu comprends-tu, manger, mais les touristes ne reviendront pas, là. Une bonne période de temps. Là.
Ça va prendre
c'est
du
pas
temps.
Les Québécois qui vont aller dans les grands hôtels du Fairmont à Montréal,
ben non.
Dans les grands hôtels. Ça prend des touristes. Et donc, là, ils sont vraiment inquiets, puis ils ont soulevé le fait que ça serait peut-être important là, qu'ils puissent venir les aider, compte tenu des retombées économiques. Écoute, c'est 2 milliards de retombées économiques, puis c'est 330 millions de recettes fiscales pour l'État. Donc, c'est un secteur là, hautement important pour le Québec.
Donc, ils demandent de l'aide de 550 millions. Et d'ailleurs, en parlant de tourisme, Yves, il y a peut-être des Québécois qui sont tentés là, en disant, ben ça va bien en Italie, ça va bien en France, on déconfine, on va aller voyager, on va aller à l'extérieur cet été, hein, peut-être au mois de juillet, tiens, on va aller en France. Non, 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 faites pas ça, parce que là, j'ai lu la TVA Nouvelle là, qui disent que vous serez pas assurés.
Non, c'est ça, on a sorti ça hier dans le journal. L'idée, c'est que déjà, les assureurs voyagent, eux autres, ils n'assurent personne compte tenu encore de la pandémie du COVID.
Ça veut dire qu'ils t'assurent, ils t'assurent pas, Yves. Non seulement tu n'es pas assuré contre la COVID, mais tu n'es pas assuré pour rien.
Non, non. Mais il y a des gens qui vont prendre le risque quand même de voyager. Et ça, mais ce qui est fascinant, c'est que Air Canada fait déjà des promotions pour des destinations, déjà c'est pour cet été, dans des pays qui ont été touchés par la COVID.
Mais quoi, ça veut dire que si jamais tu as un accident là-bas, tu tombes malade, pas nécessairement de la COVID, là, mais tu n'as aucune compagnie d'assurance qui va t'assurer. Ça veut dire que là c'est vraiment à tes risques et périls. Puis là, il va falloir que tu payes de tes poches ton hospitalisation là-bas, puis on sait que ça coûte cher. Donc, c'est un voyage qui peut te revenir très, très cher. Là.
Très, très cher. Faut y penser. Moi, je ne prendrai pas ce risque-là.
Non, moi non plus, je ne prendrai pas ce risque-là. Non. Et la rémunération des grands patrons de la caisse qui a bondi de 12 %, eh bien...
Hein? En fait, on regarde souvent le rapport annuel est tombé hier, puis c'est toujours fascinant de voir tous ces millionnaires là, à la caisse. Là. Donc, évidemment, Michael Sabia, lui, qui a gagné 4,4 millions en 2019, c'est une augmentation de 14 %. T'as Makital, qui est très peu connu, là, mais c'est lui qui gère tout le REM. Puis là, maintenant, il est devenu le chef de tous les placements privés de la caisse. Écoute, une augmentation de 21
%.
T'as une autre personne qui est responsable des infrastructures, presque de 13 % d'augmentation. Écoute, si tu regardes, là, l'année passée, ces cinq dirigeants-là ont eu droit à une totale de 17 millions en 2019, une augmentation de 11 %.
Donc, mais la caisse a eu des bons rendements quand même, là. Non?
Oui, bien, sauf que l'année dernière, la caisse avait obtenu un rendement de 10,4 %, là, qui était 1,6 % de pourcentage plus bas que ses indices de référence. Là.
Okay.
Donc, alors qu'en 2019, ça avait été une bonne année boursière. Et donc, ça a été un rendement bien ordinaire l'année passée.
Ah oui.
Tu sais, d'habitude, ils sont habitués à nous donner des meilleurs rendements que ça. Mais il en demeure pas moins que, tu sais, quand tu regardes ça, là, puis que les gens ont de la misère à arriver, là, quand ils voient des augmentations comme ça, c'est jamais... Puis surtout que c'est quand même l'argent des Québécois.
Ben oui, non. Puis tu sais, comme tu dis, ils ont eu un rendement ordinaire. Moi, j'en reviens pas le culot de ces gens-là qui finalement ne performent pas énormément, mais se donnent des bonnies, se donnent des augmentations de salaire. C'est hallucinant. Bonne nouvelle, un Québécois qui est nommé à la tête du conseil d'administration de Twitter. C'est gros, ça.
Oui, Patrick Pichette, là, qui est un Québécois, qui a été pendant des années... le vice-président de finance de Google, là, ben, il a été nommé à la tête de Twitter. Sauf qu'il faut quand même des fois faire attention parce que souvent, quand ces gens-là sont nommés, ils ont souvent un grand prestige, mais juste te rappeler que c'est lui qui a quand même participé à faire en sorte que Google s'installe dans les paradis fiscaux pour sauver de l'argent.
Okay.
On pensait à nos amis de Google à l'époque. Et il avait été interrogé souvent là-dessus en disant, ben moi, je respecte les lois, puis ben les lois sont mal faites, ben c'est tout bad. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que, et c'est nous qui avons sorti ça, parce que son nom était apparu souvent dans ce qu'on appelle les Panama Papers. Là.
Oui, oui, oui.
Lui, s'était servi des paradis fiscaux pour acheter au Québec, là, une grande réserve des grandes terres là, dans le bout de l'Outaouais. Écoute, à partir de paradis fiscaux, c'était une réserve naturelle privée qui s'appelait Canuck en Outaouais. Là. Écoute, c'est une méga transaction de 44 millions. Nous, on avait sorti ça au journal là, il y a 2-3 ans. Là. Donc, on fait la promotion souvent des Québécois qui se retrouvent à la tête de ces compagnies comme Twitter, mais il faut quand même pas oublier leur passé.
Écoute, tu parlais des Panama Papers. Tiens, si t'as rien à faire ce soir, Yves, je regardais ça hier sur Netflix, une comédie qui s'appelle The Laundromat avec Meryl Streep, Antonio Banderas,
oui, c'est bon.
Gary Oldman. Je sais pas si tu l'as vu.
Oui.
Sur les Panama Papers, c'est très drôle et c'est très bon et c'est très choquant.
Ah, écoute, on n'a pas fini d'entendre parler des paradis fiscaux, là. Et
de voir, et de voir que la Caisse de dépôt puis le gouvernement est prêt à mettre de l'argent à soutenir des entreprises qui, eux autres, font de l'évasion fiscale et vont aux îles Caïmans comme le Cirque du Soleil puis tout ça, là, c'est vraiment extrêmement choquant quand le simple contribuable, lui, il faut qu'il paye ses impôts, il peut pas s'en sortir. Merci beaucoup. Continuez votre bon job à la section argent. Salut. Yves Dao, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec, c'est ça. Ça aurait pu être très, très dry et très, très plate, finalement, un film sur les Panama Papers, mais Steven Soderbergh, le grand réalisateur, a fait ça comme une grosse farce, comme un genre de film à sketch avec Meryl Streep, Antonio Banderas et Gary Oldman, qui nous explique comment c'est fantastique, comment les gens très, très riches peuvent fourrer l'impôt. Eux autres, ils ont toutes sortes de passe-droits, puis toutes sortes de petites... Tu sais, ils peuvent s'en sortir, tandis que pour le petit contribuable, ben l'impôt, c'est une prison. Tu peux pas t'en sortir. Il n'y a pas d'évasion fiscale. Tu n'as pas de clé. Tu peux pas sortir de ta cellule. T'es pogné, mais eux autres, ils ont toutes sortes de petits trucs pour ne pas payer d'impôts. Donc, de l'andromat.
Politiquement incorrect.
À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin. Cube Radio.
Salut Richard.
Salut Jean-François.
Alors le Québec, ben c'est pas les États-Unis, hein?
Non, c'est pas les États-Unis. Écoute, on a tous été extrêmement choqués par ce qui est arrivé aux États-Unis. C'est épouvantable. Et oui, on a tous une réflexion à faire sur le racisme. Et malheureusement, au Québec et au Canada, on a aussi des taouins, on a aussi des imbéciles, des crétins, des gens racistes. Mais là, j'ai l'impression que à force de regarder des séries américaines, des films américains, d'écouter de la musique américaine, on croit qu'on est aux États-Unis. Et là, aux États-Unis, on sait qu'il y a un problème de racisme systémique. C'est vraiment intégré au fond de leur culture. Puis là, on dit, comme on a ça nous autres aussi, ce genre de problème-là au Québec, ce genre de problème-là au Canada. Oui, on a des racistes au Québec, mais écoute, je pense pas qu'on peut faire, on puisse faire le parallèle en disant que la situation est aussi grave et aussi épouvantable qu'aux États-Unis. Ne serait-ce que, regarde, aux États-Unis, il y avait le Ku Klux Klan qui organisait des défilés dans la rue. Je veux dire, le Ku Klux Klan s'est jamais implanté aussi fortement au Canada et au Québec qu'aux États-Unis. N'importe qui a été arrêté par des policiers aux États-Unis, quand tu fais de l'excès de vitesse, là, tu t'en vas dans le Maine, le policier t'arrête, t'as peur en tabarnouche des policiers américains. Là. Les policiers américains, c'est pas les policiers québécois. Là. Ils sont assez rock'n'roll. Donc, je trouve qu'il faut faire attention et bien sûr qu'il faut lutter contre le racisme au Québec et au Canada. Ouais. Mais quand j'entendais hier Justin Trudeau, là, qu'on lui a demandé qu'est-ce qu'il pensait de ce qui se passait aux États-Unis, premièrement, il a attendu 21 secondes pour répondre. Ouais. Ce qui est incroyable. Je pense qu'il y avait un problème sur son oreillette. Il n'entendait pas ce que son attaché de presse lui disait. Je ne sais pas. Mais, tu sais, il aurait pu dire, ben, c'est épouvantable, mais heureusement, le Canada, on n'a pas... De... Ben non, il s'est auto-flagellé. Puis il a dit, ici aussi, au Canada, on a des problèmes de racisme systémique. Moi, je suis plus du côté de François Legault en disant, oui, il y a du racisme, malheureusement. Oui, il faut être vigilant. Mais de là, de dire que nos institutions sont racistes, notre culture est raciste. Il faut faire attention quand même. Nous sommes quand même des gens très accueillants au Canada et au Québec. Et la diversité, c'est important. Et la Charte des droits, la Commission des droits de la personne et tout ça, ce sont des instruments importants. Donc, la réalité américaine n'est pas la réalité. Tu sais, dire le Québec, c'est comme les États-Unis, c'est comme dire la Suède, c'est comme l'Espagne. Ça n'a rien à voir.
C'est ça. Il y a un racisme dans une petite partie de la population, probablement, mais il est beaucoup plus subtil que ce qu'on voit aux États-Unis.
Tout à fait.
Beaucoup moins affiché.
Tout à fait.
Par ailleurs, Richard, on parlait aux gens de l'IRIS tout à l'heure qui parlent d'une direction de la protection des aînés, écoute, un peu comme on a une DPJ. Tu trouves que c'est une bonne idée?
Bien, je trouve que c'est une excellente idée. Hein. Vous savez qu'on a deux think tanks économiques importants au Québec. Il y a l'Institut économique de Montréal, qui est un think tank plus à droite, et il y a l'IRIS, l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Tu leur parlais tantôt, l'IRIS qui est plus à gauche. Et là, ils arrivent avec cette idée-là d'une DPJ pour les personnes âgées. Ce serait la DPA, la la Direction de la protection des aînés. On pourrait faire des signalements. Hein, j'ai l'impression que mon voisin de 75 ans, je pense qu'il se fait battre par son fils. Pouvez-vous aller vérifier ce qui se passe? Ou mon grand-père ne reçoit pas les soins qu'il devrait recevoir dans sa résidence, dans son CHSLD. Je trouve que c'est une excellente idée. Ils ont l'idée aussi d'un guichet unique. C'est-à-dire, lorsque les personnes âgées ont un problème, que ce soit avec leur propriétaire, que ce soit un problème d'aide médicale, ils veulent savoir, ils veulent avoir réponse à leurs questions concernant leur fonds de retraite, leur pension, les soins à domicile, etc. Il y aurait un numéro de téléphone, plutôt que de courir dans la machine à droite et à gauche. Un numéro de téléphone, t'appelles là et on va répondre à tes questions. Je trouve que c'est une excellente idée. Mmh. Et j'arrive avec une autre idée. Tiens, je vais rajouter quelque chose. On a un problème au Québec. Il faut redorer la réputation des personnes âgées. Chaque fois qu'on parle des personnes âgées, c'est comme si c'était un problème, ouais, un boulet, mmh, plutôt qu'un avantage. Ouais. Tu sais, dans certaines communautés culturelles, les personnes âgées, ben, elles sont bien, bien perçues. Ici, on dirait que tu participes pas à l'économie, ils sont valorisés. Ici, on te tense. Alors, tu connais la Gay Pride? La Gay Pride, qui est le, oui, défilé de la fierté, oui, gay.
OK, je te vois venir.
La Grey, okay, Pride. Alors, je trouve qu'on devrait organiser la Grey Pride. Bon. Alors, le défilé des gens aux cheveux gris. Alors, pour dire, hey, avant, on disait « Black is beautiful », là, dans les années 60, « Old is beautiful,
oui, ». Oui, oui.
Moi, je vois un défilé avec des chars allégoriques, avec France Castel, Patti Galant, Michel Richard, Denise Filiatro, dire, oui, on est des personnes âgées.
Dominique Michel.
Dominique Michel, puis c'est le fun, puis c'est cool, puis regarde, redorer la réputation. Donc, je lance l'idée, ça pourrait être un mouvement international. Hein, maintenant, la Gay Pride, c'est partout à travers les pays. La Grey Pride, ça serait bon. Alors, la fierté grise.
Richard, un petit conseil d'ami, là, enregistre ça tout de suite. Prends les droits là-dessus, le Grey Pride. C'est excellent.
Merci. Salut.
Salut, bonne journée. Ça va.
Richard Martineau.
Politiquement incorrect.
Cube Radio.
Ben justement, je disais que la réalité américaine, c'est pas la réalité canadienne. L'historien Frédéric Bastien, qui est candidat à la direction du Parti québécois, qui a écrit justement un texte très intéressant sur sa page Facebook en disant, ben là, écoutez, là, c'est deux réalités différentes. Salut Frédéric Bastien.
Oui, bonjour, bonjour.
Bonjour. C'est vrai que hier... Tu sais, il a manqué une bonne occasion, Justin, pour justement souligner le fait que le Canada, c'est quand même pas les États-Unis. On a le droit de critiquer nos voisins, hein. Jean Chrétien l'avait fait lors de l'intervention en Irak. Lui, il avait refusé que le Canada participe à ça. Brian Mulroney aussi, qui avait beaucoup critiqué Reagan, qui ne s'impliquait pas dans la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Il aurait pu faire ça, Justin, hier, non, 21 secondes de silence, puis après ça, il s'est flagellé en disant qu'il existe du racisme systémique au Canada. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça?
Ben moi, je pense qu'il faut pas qu'il y ait d'amalgame dans ce genre de choses. De la même façon, quand il y a un attentat islamique, d'islamiques radicaux, il faut dire et répéter que l'immense majorité des musulmans sont des gens pacifiques et que, mm-hmm, c'est une toute petite minorité qui est prête à la violence. Et on dit à juste titre, ben, pas d'amalgame. Alors, de la même façon, dire que le Canada, c'est comme un peu les États-Unis, non. Je pense que c'est l'histoire nous enseigne en fait plutôt exactement l'inverse. Au niveau des relations raciales, le Canada a une histoire qui est complètement, alors là, complètement différente de celle des États-Unis.
Parce que là, on entend des fois, là, il y a des militants, entre autres Webster, qui nous rappellent que oui, il y a eu de l'esclavage au Québec, nous autres aussi, puis tout ça, mais que ça n'a rien à voir, l'esclavage qu'il y a eu au Québec et au Canada par rapport au problème de l'esclavage aux États-Unis.
Absolument. Et d'ailleurs, il y a 12 millions de Noirs africains qui ont été capturés, qui ont été amenés vers les Amériques pour l'esclavage quand cette pratique existait là, au 17e, 18e, 19e siècle. Et là-dessus, si vous prenez le Canada, il y en a 0,01% du total de ces Noirs capturés en Afrique qui sont venus au Canada. Alors, les sociétés esclavagistes, c'était le Brésil, les Antilles, le sud des États-Unis, le nord un peu aussi, mais bref, ça n'a aucun rapport. Et, bon, on a beaucoup parlé de frontières, de réfugiés dans les dernières années, tout ça, Ça a fait l'actualité à plusieurs reprises. La première grande vague de réfugiés qui est arrivée au Canada, c'était au milieu du 19e siècle. C'était des esclaves noirs américains qui fuyaient et arrivaient au Canada pour retrouver leur liberté, là où la police américaine ne pouvait plus les capturer. Il y a des dizaines de milliers de noirs américains qui sont arrivés comme ça au Canada, et ça a été les premières grandes populations noires, là, une des premières grandes populations noires arrivées au Canada, c'est des esclaves en fuite.
Ça me fait penser à la série The Handmaid's Tale là, de Margaret Atwood, où les femmes là, qui sont maltraitées aux États-Unis là, veulent se réfugier au Canada. Là, c'était les Noirs. C'est ce qu'on appelait le Underground Railroad, là, finalement. Là. C'était ce chemin-là qu'ils prenaient pour venir au Canada se réfugier.
Oui, absolument. Et ces gens-là ont été accueillis. Là. Il n'y a pas personne au Canada qui a dit on devrait les retourner à l'esclavage. Là. Et que non, il y avait une réelle hostilité à l'esclavage au Canada. Et d'ailleurs, quand la guerre civile américaine a commencé en 1861, il y a des dizaines de milliers de Canadiens anglais et français qui se sont enrôlés dans les armées de l'Union, puis ça, c'était des volontaires. Évidemment, nous, on n'avait pas à s'enrôler. Ils ont traversé les lignes où ils étaient déjà aux États-Unis et ils se sont enrôlés. Et notamment, moi, je tiens à le dire parce que je trouve que c'est un exemple parlant. Calixte Lavallée, l'un des deux auteurs de notre hymne national, s'est joint à un régiment du Rhode Island. Puis il a fait toute la guerre de sécession pour un régiment du Rhode Island. Après ça, il est rentré au Québec. Mais il y avait donc les relations raciales n'étaient pas du tout vues du même œil, là. Ça se vivait pas du tout de la même façon au Canada.
Et le KKK, est-ce qu'il y avait une branche du KKK au Canada?
Ben voilà un autre exemple. Le KKK a été très peu populaire au Canada. Et l'endroit où il a été le plus populaire, c'était en Saskatchewan. Là, il y a un an. C'est vraiment l'exception, si je puis dire. Mais encore là, ça n'a pas duré longtemps et il s'attaquait surtout aux catholiques, aux immigrants, aux Canadiens français. Bref, ça n'a pas été un épisode marquant. Il n'y a pas eu de lynchage au Canada. Aux États-Unis, pendant des décennies, après la guerre civile américaine, là, surtout dans le Sud, mais pas juste dans le Sud, il y avait des vindictes populaires contre des Noirs qui étaient pendus par des foules en colère parce qu'ils étaient accusés de ceci ou cela. Il y avait des histoires particulièrement dramatiques.
Dans les années 50-60, là.
Oui, c'est ça. Et là, on parle de 4000, au-delà de 4000 victimes. Ça, c'est vraiment... Et ça, au Canada, ça n'a jamais existé. Donc.
Et on nous ressort aussi qu'il y a eu Adrien Arcan, qui était quand même là, un parti nazi au Québec, preuve qu'il y avait du racisme au Québec. Mais Adrien Arcan, est-ce que c'était quand même un épiphénomène, quoi? C'était-tu un parti important?
Non, Adrien Arcan n'avait pas beaucoup d'appui. Il y avait des partis d'extrême droite comme Adrien Arcan. Il y en avait en Grande-Bretagne, il y en avait en France. Il y en avait aux États-Unis. Alors, évidemment, si vous comparez le Canada avec une espèce d'idéal utopique, alors on est loin de la perfection, là. C'est sûr qu'il y a eu du racisme au Canada, il y en a encore de l'intolérance. Mais si vous comparez le Canada à des pays qui existent dans la vraie vie, là, à des moments qui ont existé dans l'histoire à d'autres périodes, donc quand on se compare à ce qui existe dans le monde ou ce qui a existé dans le monde, notre bilan en termes, en tout cas si on parle de relations raciales entre les Blancs et les Noirs, là, notre bilan, il est quand même, moi je pense, il est quand même positif, même s'il n'est pas parfait, là. On se comprend. Là.
Mais Frédéric, mon Dieu, j'aurais aimé ça vous avoir comme prof d'histoire. J'aurais adoré ça vous avoir comme prof d'histoire. Comment ça qu'on ne nous enseigne pas ça? Et j'ai l'impression que on nous enseigne beaucoup, là. Tu sais, c'est un peu un enseignement victimaire, c'est-à-dire que on souligne toujours ce qui ne fonctionne pas, mais c'est bien aussi de dire, sans faire l'apologie du Canada et l'apologie du Québec en disant que nous sommes des paradis, mais quand même aussi de montrer aux jeunes Québécois, aux jeunes Canadiens qu'on a de quoi être fiers de nos sociétés, de notre histoire aussi.
Ben moi, je pense qu'il faut souligner les bons coups, les moins bons coups. Faut pas faire une histoire à l'eau de rose. Mais si on parle en particulier de la question des Noirs, Ben là, là-dessus, je pense qu'on a quand même un bilan qui est quand même assez positif. Là, après ça, si on parle des Amérindiens, ça va être une autre question. Ça va être une autre. Le bilan est moins reluisant. Donc, il faut faire les nuances. Mais si on parle spécifiquement des relations avec la communauté noire, comment ça s'est passé au Canada, puis comment ça se passe, ça n'a vraiment rien à voir avec les États-Unis.
Frédéric, il y a une journaliste de CGAD qui, sur Twitter, a fait un parallèle entre le drapeau des Patriotes et le drapeau confédéré là, américain, qui est le symbole de l'esclavage. Il y a des gens qui profitent de la crise actuelle qu'il y a aux États-Unis pour refaire le procès du Québec en disant, regardez la Charte des valeurs, regardez la loi 21, regardez la loi 101, regardez la fameuse phrase de Jacques Parizeau, il y a un racisme systémique au Québec. Puis là, on tu sais, c'est toujours ces gens-là qui font le procès du Québec, nous sommes xénophobes, intolérants, etc.
Ben, c'est l'accusation standard de nos jours quand on veut discréditer quelqu'un. Pardon. On dit, ben voilà, c'est un raciste, c'est un intolérant. Alors que tout le débat sur la loi 21, pour une raison que je m'explique pas complètement, mais du côté anglophone, il y a plusieurs font une association entre la religion et la race, alors que c'est évidemment, ça n'a absolument rien à voir. On peut, il y a des gens qui sont, il y a des chrétiens de toutes les races, il y a des catholiques de toutes les races, il y a des musulmans de toutes les races, il y a des juifs de toutes les races. Moi, je suis allé souvent en Israël et en Israël, il y a une minorité noire juive qui est originaire d'Éthiopie. La religion et la race, ça n'a aucun rapport. Et le message, je vais prendre l'exemple de l'Église catholique, c'est toujours voulu un message universel qui s'adressait à toutes les populations de la Terre, nonobstant leur couleur de peau. Donc, la religion, par essence, me semble-t-il, est quelque chose qui ne s'adresse pas du tout aux races. Ça n'a aucun rapport. Donc je comprends pas pourquoi on fait pas cette nuance.
Et autre chose que je ne comprends pas aussi, peut-être en tant qu'historien, vous allez pouvoir éclairer mes lanternes, mais comment ça se fait, qu'est-ce qui est arrivé au mot nationalisme? Comment ça se fait que ce mot-là, qui était un mot qui était noble dans les années 70, le nationalisme, c'était bien vu, s'est rendu quasiment maintenant un mot radioactif? Est-ce que c'était à cause du fameux cours d'éthique et de culture religieuse? Chez les jeunes, le nationalisme, ça égale fascisme, là, presque.
Ben, en fait, il y a deux choses. Le mot nationalisme ou l'idéologie nationaliste a été, disons, critiquée beaucoup après la Deuxième Guerre mondiale à cause du nazisme, à cause du fascisme en Europe. On a dit, ben, c'est pas correct d'être nationaliste. Enfin, pas tout le monde a dit ça, mais certains l'ont vu comme ça et ont commencé à le critiquer comme ça. Au Québec et au Canada, la différence, là, si on parle spécifiquement du nationalisme québécois, c'est que dans les années 70, je dirais, au sein de la gauche canadienne-anglaise, il y avait une culpabilité par rapport au sort des francophones dans le Canada, par rapport à la situation des Québécois. Donc, les Québécois étaient vus comme des victimes, les francophones étaient vus comme des victimes. Et par conséquent, on attaquait moins, ça se faisait déjà, mais il y avait moins des attaques moins virulentes en disant nationalisme égale intolérance, égale racisme, égale ceci, égale cela. Mais à partir des années 90, tout d'un coup, il y a eu un changement au sein d'une certaine gauche canadienne-anglaise, là, c'est devenu les Autochtones qui étaient la minorité oppressée. Et là, c'est devenu de plus en plus commun, de plus en plus acceptable chez certains commentateurs, chroniqueurs, puis penseurs, d'attaquer le nationalisme québécois en disant qu'il est foncièrement et intrinsèquement porteur.
Donc, on est passé de coloniser, hein, c'était l'époque de nègres blancs d'Amérique, là, on était les colonisés à colonisateurs.
Oui, c'est ça. On est passé d'oppressé à oppresseur. Et là, donc, comme on est dans la catégorie oppresseur désormais aux yeux de certains, alors là, évidemment, bon, il n'y a plus aucune nuance qui se fait dans cette espèce de dichotomie, là, oppressé-oppresseur. Et donc, nous, on est dans la catégorie des oppresseurs et il n'y a plus petites nuances qui se font et puis...
Mais c'est, voilà. C'est très intéressant de vous parler parce que ça montre, là, quand on connaît notre histoire, là, on n'arrive pas avec des grossièretés comme les États-Unis, c'est le Québec, puis il y a du racisme systémique, puis tout ça. Lorsqu'on connaît l'histoire, on met les choses en perspective. Je reviens là-dessus, j'aurais aimé vous avoir comme prof d'histoire. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe avec le PQ? Il va-t-il avoir un chef à un moment donné au PQ, là?
Ben là, notre course recommence dans 2 jours, alors et on va avoir une élection au début octobre prochain, donc on va avoir une course au PQ, il va y avoir un chef au PQ. On va être dans une course inédite parce que là, évidemment, on est en semi-confinement, ben oui. Là, il y a beaucoup de choses qu'on peut pas faire.
Est-ce qu'il va y avoir un débat? Vous allez avoir tous un masque au débat? Comment ça va se passer?
J'espère qu'on n'aura pas de masque au débat. Là. J'imagine qu'on va respecter les directives de la santé publique, là, mais
ben oui.
ce qui va nous manquer, je pense, malheureusement, c'est le contact avec les militants sur le terrain. Ça va être, j'imagine, réduit à sa plus simple expression, là, parce qu'on peut pas être plus que 10, là, enfin, pour l'instant, du moins. Donc, c'est sûr que ça va être une course handicapée, là, malheureusement pour nous, là. On pourra pas faire une course comme on les a connus là, jusqu'à tout récemment. Là.
Ben en tout cas, j'invite les gens à lire votre page Facebook, ce texte-là, « Le Canada, les États-Unis et le racisme, que nous enseigne l'histoire ». Et bonne course, Frédéric Bastien, puis on se reparlera, bien sûr, au cours des prochaines semaines. Bonne course, merci.
Parfait, merci Richard.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Richard Martineau.
Politiquement incorrect.
Cube Radio.
Nous parlons à Emmanuel Latraverse, analyste politique. Emmanuel, on compte ça, 21 secondes de silence pour voir ce que ça fait à radio.
Vas-y.
Écoute, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que c'était voulu, selon toi? C'était comme un silence qui était lourd, qui était riche, de qu'on pouvait interpréter comme on voulait, ou c'est rien qui ne savait pas quoi dire?
Écoute, moi, c'est sûr que je pense, plusieurs pensent que c'était calculé dès le départ, malgré tout le respect que j'ai pour les conseillers en communication du premier ministre. Là, j'ai beaucoup de misère à imaginer que le matin, en le préparant pour son point de presse, il va dire, OK, Justin, quand la question va être posée, tu vas donner la réponse sur le Canada. Puis là, après ça, là, quand on va te poser la question d'une manière que tu peux pas y répondre, Là, tu vas regarder les Kodak, tu vas pas parler, puis tu vas compter jusqu'à 21 dans ta tête. Moi, je pense que ce qui est arrivé, c'est que la question a été posée de manière très, très habile par mon collègue Tom Perry, qui est un super journaliste, et qui a demandé, si vous ne voulez pas commenter, quel signal envoie votre silence? Et on le voit dans le langage corporel du premier ministre, que c'est là qu'il y a comme... Il a arrêté pour y penser. Et moi, je pense que c'est là que l'idée est venue de rien dire.
Et en disant rien, il disait plein d'affaires.
Mais moi, ce que j'ai lu, là, c'est qu'en ne disant rien, qu'est-ce qu'il nous disait? Il nous disait, vous savez ce que je pense, puis vous savez pourquoi je ne peux pas le dire.
Mais pourquoi il ne peut pas le dire? Pourquoi il ne pouvait pas le dire? C'est ça l'affaire.
OK. Parce que s'il le dit, ça va nous... Collectivement, ça va faire du bien à tout le monde. On s'entend? Parce que venant de lui, qui est très militant pour l'égalité, etc., tout le monde dira, oui, c'est brillant, Justin a dit à Trump ce qu'il pense vraiment, puis etc. Mais face à un président comme ça, là, est-ce que c'est un risque qui en vaut la chandelle? Est-ce que c'est un risque qui en vaut la chandelle de soulever l'ire du président américain qui est à la recherche de n'importe quoi pour faire oublier ses propres ratés?
Mais Emmanuel, rappelle-toi quand George W. Bush voulait envahir l'Irak, Jean Chrétien a dit absolument pas. C'est ta guerre à toi, c'est pas
un. Oui, mais c'était sur un principe politique général. On lui demandait pas de porter un jugement de valeur sur l'intellect de George Bush, de un. De deux, George Bush, c'est pas Donald Trump. Et je pense pas qu'on peut comparer les deux circonstances. Le Canada est capable de dire non aux États-Unis sur une foule d'enjeux. Ils le font. mais de se laisser traîner dans un débat qui devient personnel, parce que le débat en ce moment, c'est est personnel, c'est sur la personnalité, c'est sur l'approche du président, c'est sur son côté vindicatif, ça ne sert à rien. Moi, je pense qu'en effet, c'est plus utile pour le bien du pays dans son ensemble de se servir de cette crise aux États-Unis pour forcer une réflexion nécessaire au Canada. Le problème avec le silence de 21 secondes, c'est que M. Trudeau va se refaire poser la même question aujourd'hui.
Mm-hmm.
Il va se refaire poser la même question demain.
Là, il peut pas garder le silence tout le temps, là, c'est ça.
Tu peux pas sortir ce lapin, là, de ton chapeau deux jours de suite,
Mais là, il s'est auto-flagellé en disant, oui, nous autres, plutôt que de parler des États-Unis, il a dit, ah, nous autres aussi, on a une réflexion à faire, puis il existe aussi du racisme systémique chez nous. D'ailleurs, Ottawa et Québec sont pas d'accord là-dessus, pantoute, là. M. Legault dit non.
Oui, mais moi, je vois pas ça comme, je sais que, il n'y a pas le même point de vue dominant au Québec. Mais moi, je vois pas ça comme de l'auto-flagellation. Je pense qu'on a une peur irrationnelle, j'oserais dire, du mot racisme systémique, mais disons discrimination systémique au Québec, qui reflète, je pense, une mauvaise compréhension de ce que ça veut vraiment dire. Racisme systémique et discrimination systémique ne veulent pas dire systématique. Donc, ne veulent pas dire systématique. Donc, quand on parle de racisme systémique, on ne parle pas de racisme systématique. La discrimination systémique n'est pas la discrimination systématique. C'est pas de dire que tous les Québécois sont racistes, etc.
Non, mais c'est de dire que nos institutions, c'est au cœur de nos institutions le racisme. C'est ça le racisme systémique.
Non, moi je suis pas. En tout cas, quand tu lis les définitions légales, la Commission des droits de la personne, des experts en la matière, ça veut dire c'est la discrimination qui est dans nos règles, dans nos normes, dans nos pratiques et qui n'est pas intentionnelle, mais qui a le résultat d'exclure. C'est plus facile, moi je trouve, d'avoir cette discussion-là quand tu donnes des exemples qui n'ont pas rapport avec la race. Ok, prenons les femmes. Okay, c'est plus facile parce que ces problèmes-là ont été réglés depuis. Je vais donner un exemple très, très concret qui m'est venu hier soir. Il y a une certaine époque où un certain réseau de télé obligeait tous les correspondants nationaux à rester au bureau jusqu'à 9h30 une fois que leur reportage de fin de soirée avait fini de passer au bulletin de nouvelles au cas où l'animateur voudrait des changements avant 10h.
Okay.
On s'entend que ça arrivait là, à peu près une fois sur 20. OK? Mais les reporters étaient quand même pris au bureau jusqu'à 9h30 à tous les soirs.
OK.
Alors, c'était pas une entreprise anti-femme. C'était pas une entreprise misogyne. Au contraire, ils n'arrêtaient pas de donner des promotions aux femmes journalistes. OK? Qui avaient des rôles importants, qui avaient des rôles. Mais c'était quoi le résultat? C'est que toutes les femmes qui avaient des jeunes enfants. Et t'as fait combien de temps dans cette job-là à rentrer à la maison à 9h le soir, 5 soirs par semaine? 2 ans? Au max? Il y en a combien dans le lot qui ont quitté à cause de ça? Alors ça, c'est un exemple parfait d'une discrimination systémique. Le but de la discrimination, c'est pas d'exclure les femmes, mais l'effet, c'est d'exclure les femmes. C'est comme dire que pour rentrer dans la police, il faut mesurer 5 pieds et 7. L'effet, à l'époque où cette règle-là a été mise en œuvre parce qu'on voulait des gros policiers, des policiers minimalement baraqués, ben 20 ans plus tard, on se rend compte qu'il y a des femmes de 5. C'est quoi l'effet? C'est que tu finis par exclure plein de femmes de la capacité de devenir policière. Alors, c'est ça le systémique. Alors, c'est pour ça qu'il faut être capable d'avoir une réflexion saine là-dessus. C'est pas de dire que les Québécois sont racistes. Je ne le pense pas, absolument pas.
Mais il y a des gens qui disent ça. Là. Écoute, là, quand on dit là, que le drapeau des patriotes, c'est comme le drapeau confédéré américain, là, je m'excuse. Il y a des gens qui profitent de ce qui se passe aux États-Unis pour varloper encore une fois là, les Québécois.
Oui, ça, je suis d'accord. Ça. Et je pense que ce débat-là est mal placé et injuste. Mais quand on parle de profilage racial, il y en a à la tonne. Il y a plein de rapports qui ont été faits. C'est reconnu, c'est assumé. Il n'y a personne qui va aller penser que chaque policier qui fait du profilage racial est raciste. C'est pas ça. C'est que les policiers ont des habitudes de fonctionnement, des réflexes dans ce qui justifie une interpellation, qui fait en sorte qu'ils font du profilage racial. Alors, il faut être capable de s'enlever, moi, je pense, de l'esprit, cette logique selon laquelle, dès qu'on parle de discrimination systémique et de choses comme ça, ça veut dire qu'on est raciste. Non, moi, je pense que l'effort, c'est de regarder nos pratiques, d'oser faire des études, d'oser colliger des données, de dire, hey, finalement, là, cette pratique-là, cette règle-là, cette norme-là, on pensait qu'elle était inoffensive et on se rend compte qu'elle a un effet discriminatoire.
Mais il y a
le but d'une discussion éclairée là-dessus.
Oui, et tu dis qu'on a peur d'avoir cette discussion-là parce qu'on a peur de se faire traiter de raciste et tout ça, donc on évacue oui. ça sous le tapis.
Ben moi, je pense que oui. Je pense que, de un, quand le gouvernement Couillard a lancé cette réflexion-là, il l'a lancé de façon très malhabile. Et le ton d'honneur de leçon de M. Couillard dans le contexte des lendemains de la charte, des débats identitaires, de tout le reste, ça a créé un climat explosif qui a empoisonné cette réflexion-là. Alors, c'est ce qui fait que maintenant, au Québec, dès qu'on utilise le mot discrimination systémique ou racisme systémique, parce que du racisme systémique, c'est de la discrimination systémique, mais qui s'applique à la race, OK? C'est juste ça, là. Et c'est tout ça en même temps. Mais dès qu'on utilise ces mots-là, tout le monde devient sur la défensive, comme ça voulait dire que les Québécois étaient racistes. Je pense qu'à un moment donné, il faut revoir la façon dont on lance ce débat-là. Puis
donc, d'un côté, qu'il y a des gens qui utilisent trop souvent le mot racisme systémique pour régler le cas du Québec, mais de l'autre côté, il y a des gens qui sont trop aveugles et qui se bouchent les yeux et les oreilles.
Aveugle, je pense que... Au Québec, pour une foule de raisons historiques d'ailleurs, là, le débat sur l'identité, le nationalisme, les Québécois, c'est quoi être Québécois, etc., fait en sorte que ces enjeux-là autour de l'appartenance, de la discrimination, du racisme, etc., sont très à fleur de peau et sont très émotifs. Mais je pense qu'on ne perd rien à revoir nos façons de travailler, de fonctionner, de réfléchir là-dessus. Et c'est pas parce qu'on change des pratiques que c'est un aveu qu'on était raciste. Si on change des pratiques, c'est un aveu qu'on veut améliorer l'accès à l'égalité. Donc, il faut comme changer notre façon de penser à ces choses-là.
Et d'ailleurs, j'invite les gens à lire ton texte de Quoi a-t-on peur? Merci beaucoup, Emmanuel.
Ça me fait
Merci.
Plaisir.
Merci. Bonne semaine. Au revoir.
Pour nous rejoindre en studio.
Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
187 cube radio.
1-877-827-2346.
Politiquement incorrect.
Ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie.
COVID-19.
Nouvelle tune, ça, que tu vas pouvoir écouter, Vincent Dessureau, sur ton ponton.
Oui.
Parce que Vincent est l'heureux propriétaire. Vous saviez que Vincent avait un avion, il a vendu son avion, et là, il est passé d'un avion à un ponton.
Oui, je suis vieilli. Hein?
C'est-tu l'âge qui arrive? T'es un peu plus tranquille, la petite
Mais bière. Je me dis, les boomers ont l'air heureux. J'ai dit, je vais faire comme eux.
Mais
ça coûte, je te dirais que les frais, c'est pas la même. Le monde me dit, le monde maritime, ça coûte cher. Disons, ça coûte pas cher par rapport à l'aviation.
Est-ce que tu peux dire où il est amarré, ton ponton?
Ben, il est pas encore amarré nulle part, mais il sera à la ronde.
À la marina de la ronde?
Oui, alors je pourrais aller me promener sur le fleuve. On ira d'ailleurs.
S'il te plaît. C'est mon
promener,
rêve.
Là. Alors, je vais être.
Un petit vin blanc sur
Pas dans l'air, mais pas sur terre non plus. Sur l'eau cet été. On verra si j'aime ça.
Écoute, bonne nuit. Nouvelle, 60 000 personnes intéressées à devenir préposées aux bénéficiaires, c'est bien.
Oui, ben c'est une bonne nouvelle, c'est un casse-tête pareil à gérer, là, cette opération lancée par François Legault pour aller chercher des intéressés à devenir préposés aux bénéficiaires. Puis on se demandait, là, hier, on prévoyait 10 000, mais tu sais, le gouvernement ne savait pas plus, Richard, combien de personnes il allait y avoir, là, est-ce qu'on allait avoir 1 000 ou 100 000. Finalement, c'est donc, et ça monte, là, parce que tôt ce matin, M. Legault a tweeté, d'ailleurs, merci du fond du cœur aux 55 000 personnes qui ont entendu notre appel et qui ont soumis leur candidature pour devenir préposé en CHSLD. Et c'est déjà 61 000 au moment où l'on se parle. Alors, wow. Ça continue de monter. On sait que ça vient avec une formation cet été payée de 3 mois, mais qui vous permettra ensuite d'avoir un poste de préposé en CHSLD avec un salaire de 49 000 $ annuel et les avantages sociaux qui viennent avec. Et mais il y a un revers à ça, Richard. Et le principal, je pense que le chiffre magique que M. Legault aurait peut-être voulu avoir, c'est entre 10 et 15 ou 10 et 20 000 pour avoir un petit choix à faire. Mais là, qui tu choisis parmi les 60 000? Parce que 60 000, là, tu, à mon avis, tu es capable d'avoir exactement 10 000 personnes d'expérience dans le réseau privé que tu vas aller dépouiller. Il
faut que tu choisisses la crème de la crème.
Oui, mais tu peux pas parce que ça va endommager ton réseau. Idéalement, tu vas chercher des chômeurs qui travaillent pas du tout dans le monde de la santé puis qui vont être des forces complètement nouvelles. Mais là, quelqu'un qui travaille dans le privé, qui a de l'expérience, ou quelqu'un qui travaille auprès des handicapés, ou quelqu'un qui travaille dans un autre domaine social, c'est un questionnement qu'avait mon collègue Mario Dumont depuis plusieurs jours.
Tu l'enlèves.
Parce que cette personne-là peut être.
Tu déshabilles Guy pour habiller Jean.
C'est pas Guy, mais c'est. je comprends ton. Donc, il y a un questionnement là-dessus. On verra. Et assurément que M. Legault sera questionné lors du prochain point de presse là-dessus. Qui vous allez choisir? Est-ce que vous prenez quelqu'un qui est dans le réseau, qui a de l'expérience, qui va pouvoir faire très bien l'affaire, qu'on sait qu'il est bon avec les personnes âgées, mais en dépouillant une partie du réseau, ou tu prends quelqu'un de flambant neuf qui n'a pas travaillé du tout là-dedans? Ben, il y aura des choix difficiles, mais quand même, on voit au moins qu'il y a de l'intérêt. Alors, il y aura facilement les 10 000 demandeurs pour cette formation.
C'est un beau problème, comme on dit. L'Iran confirme une forte hausse de cas. C'est bizarre parce que les femmes sont masquées depuis très, très longtemps là-bas.
Écoute, Richard, on est à presque 6 000, on approche 6 500 000 cas dans le monde, 380 000 décès. Mais pour montrer quand même que la pandémie, c'est pas fini, hein, qu'il y a des pays où ça peut revenir. En Iran, là, qui avait très peu de cas, en fait, c'est en forte baisse le mois dernier. Et là, on est à plus de 3 000 nouveaux cas quotidiens depuis la troisième journée consécutive, donc une situation à surveiller. Alors qu'en Corée du Nord, Richard, où il n'y a toujours aucun cas de la maladie en Corée du Nord, confirmé, évidemment.
Ben oui.
Et les écoles rouvrent aujourd'hui pour les jeunes, pour les écoliers qui ont accès à des...
Et Dieu sait que le système d'éducation en Corée du Nord, c'est quelque chose.
Il était temps que ça reprenne, effectivement.
Ben oui, pour avoir des cours sur leur leader.
Voilà.
La Suède qui ferait des choses différemment.
Oui, parce qu'on a beaucoup, beaucoup parlé de la Suède, évidemment, qui avait une approche totalement différente en confinant très peu. Il faut dire que c'était pas... On incitait quand même les gens au travail à domicile, limiter les contacts, se laver les mains, mais on avait gardé les écoles ouvertes, on avait gardé même les restaurants, les entreprises, tout ça ouvert. Mais dans les dernières heures, l'épidémiologiste en chef, Anders Tegnell, de l'Agence de santé publique, qu'on voit un peu comme le centre de cette façon de faire, ferait les choses différemment si c'était à refaire, parce que selon lui, le bilan est vraiment trop élevé pour la Suède, c'est presque, en fait, plus de 4000 morts, 4468.
Donc, il n'y aurait pas déconfiné autant.
Il n'y aurait pas déconfiné. En fait, ce qu'il dit, et ce sera probablement l'analyse que nous, on va faire aussi, selon lui, là, avoir à refaire ça, ce serait quelque part entre ce qu'a fait la Suède et ce qu'a fait le reste du monde. Donc,
un entre-deux.
Alors que si on prend la Finlande et la Norvège, par exemple, deux pays qui ressemblent à la Suède, c'est 321 et 237 mort. Et on est à 4500 du côté de la Suède. Alors, on commence quand même à avoir
certains
regrets.
Plein de trucs contradictoires sur la Suède. C'est bon, c'est pas bon, ça va bien, ça va pas bien.
Mais veut pas, c'est un essai un peu partout. Et il faut croire que peut-être la solution, ça aurait été plus au centre.
De Lancet, soudainement, là, qui ont quasiment fait leur mea culpa sur leur étude.
Oh oui, cette étude sur l'hydroxychloroquine qui avait causé l'arrêt de plusieurs recherches. On sait que l'OMS avait même stoppé ses propres recherches sur l'hydroxychloroquine à la suite de cette étude auprès de 96 000 patients. Enfin, étude de données là, sur 96 000 patients qui arrivaient à la conclusion que l'hydroxychloroquine, ça marchait pas et que c'était même nuisible. Mais plusieurs chercheurs sont sortis par après pour dire que cette étude-là était mal faite. Même, et ça, c'est ça qui est intéressant, même des scientifiques qui sont très sceptiques, qui selon eux, disent ça marche probablement pas l'hydroxychloroquine, mais c'est pas vrai qu'on va appuyer ce genre d'études-là bâclées. Et c'est ça la science, je pense, de dire qu'il faut pas juste appuyer ce qui fait notre affaire. The Lancet qui avait publié cette étude-là fait ce qu'on appelle le expression of concern, une expression de préoccupation qui est généralement ce qu'on met avant carrément de retirer un article scientifique parce qu'on émet donc des réserves.
Les autres avaient lancé d'ailleurs une étude indépendante sur cette étude-là, c'est ça?
Écoute, on travaille justement à essayer de valider ou pas l'étude qui risque donc d'être tirée de façon pure et simple. Mais l'effet est quand même déjà grand dans le monde puisque ça avait avait fait grand bruit. Ça, faut dire que ça allait quand même dans le même sens que certaines études plus petites dans le monde.
Un jeune homme de Châteauguay accusé de leurre.
Ah oui, c'est une histoire qui fait jaser beaucoup ça, Richard, dans le secteur de Châteauguay. Charles-Olivier Patnaud, 25 ans, un jeune homme qui a comparu hier au palais de justice de Salaberry de Valleyfield pour harcèlement, leurre informatique, extorsion et transmission de matériel sexuellement explicite à 4 donc, personnes, dont 3 mineurs qui seraient, dans certains cas, là, des membres de l'équipe de la Ligue d'hockey Midget 3 du Québec, qui là-dedans sont des jeunes de 14 à 17 ans. Donc, on parle, dans certains cas, ici, de mineurs. Et c'est une personnalité quand même un peu connue, là, Charles-Olivier Patnaud, puisqu'il était, avait tenté sa chance en politique au conseil municipal de Châteauguay. Lui, qui a 25 ans seulement, était directeur de campagne pour la caquiste Marie-Chantal Chassé, là, dont on avait beaucoup parlé.
Oui, oui, oui.
Et était devenu co-licencié avec sa mère de la nouvelle franchise de Chocolat Favori, ouverte en mars à Châteauguay. D'ailleurs, Chocolat Favori, via son président Dominique Brown, a écrit un message pour dénoncer, évidemment, cette histoire. L'établissement qui a été fermé jusqu'à nouvel ordre par le président. Alors, une histoire qui fait beaucoup jaser, disons, dans la communauté.
Et en terminant la 8e journée de manifestation aux États-Unis, il ne s'arrête pas, là.
Oui, pour vous dire, moins de violence quand même hier, mais plusieurs milliers de personnes, même dont la sénatrice Elizabeth Warren à Washington, ont manifesté hier. Il y a 60 000 personnes qui ont rendu hommage de façon pacifique à Houston, au Texas, à George Floyd. Alors, plusieurs manifestations. Et jusqu'où ça va se poursuivre? Hein? On est rendu quand même à 8 nuits défilées pour les Américains. Et je termine en disant qu'un Québécois est nommé à la tête du conseil d'administration de Twitter. Richard, en pleine controverse puis guerre contre le président américain, c'est maintenant Patrick Pichette, un gars de chez nous, un Québécois.
Est-ce qu'il va barrer Donald de Twitter?
Ben, je sais pas, mais j'ai hâte de voir son quel sera. Faut dire qu'il était déjà sur le CA. Il est d'ailleurs sur le CA de Bombardier, Patrick Pichette. Lui qui a un bac en gestion des affaires à l'UQAM et aussi 3 maîtrises à Oxford, mais il est sera donc à la tête du CA de Twitter. Lui qui a été sur le conseil également de Google enfin la direction financière de Google pendant de nombreuses années.
Et ça a l'air que son CV fait 280 caractères. Très petit.
Salut.
Salut, j'ai hâte d'aller sur ton ponton, Vincent.
Merci. Bon.
Politiquement incorrect.
Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
187 Cube Radio.
1-877-827-2346.
Alors, on va parler des États-Unis. Je ne sais pas pourquoi. Il ne se passe rien dans ce pays-là ces temps-ci. C'est assez tranquille. Avec Luc Laliberté, analyste et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Luc.
Oui, salut, Richard.
Est-ce que c'est le début de la fin pour Donald?
Ouf. C'est en bien malin avec Donald Trump qui est en mesure de prédire la suite des choses. Puis on parle de Donald Trump, mais bien entendu, ce qu'il faut regarder, c'est à quel point les problématiques sont multiples aux États-Unis. M. Trump n'a rien inventé de tout ça, bien entendu. Il n'a pas créé ça, même s'il cherche à l'exploiter à son profit. Écoute, une chose avec laquelle je me sens très à l'aise, c'est de te dire que si ce qui se passe actuellement ne provoque pas la fin de Donald Trump, il n'y a rien qui va y parvenir. Je veux dire, on a multiplié les gestes spectaculaires, les maladresses, la provocation, on a soulevé l'indignation. Écoute, quand une dignitaire de l'Église réagit en disant que ce qu'il a fait à Washington est particulièrement honteux et qu'il transgresse tous les enseignements du Christ, pour un croyant, je vois pas. C'est une évêque qui s'élève. Là. On parle pas d'une militante, on parle pas non plus d'une démocrate. Là. On parle de quelqu'un qui dit ce qu'il a fait en récupérant le pape Jean-Paul ou en récupérant encore mon église, notre église dans la communauté, c'est carrément indécent. Je vois pas qui, à part ses partisans les plus farouches, sont intéressés à voter pour Donald Trump ou à l'appuyer. Je veux bien croire que M. Trump peut se targuer d'avoir eu une économie favorable pendant les 3 premières années. À un moment donné, ce n'est pas la seule considération, même si en politique intérieure, on le sait qu'aux élections, c'est très important. Donc, tout ça pour dire, je m'étire un peu, mais si cette situation-là ne vient pas à bout de la présidence Trump, il n'y a rien qui va y parvenir.
Est-ce que tu es d'accord avec les gens qui disent que Donald Trump a décomplexé les racistes? C'est-à-dire qu'avant, quand tu étais raciste, tu le disais pas, mais que depuis que Trump est à la Maison-Blanche, les racistes ne se gênent plus pour le dire haut et fort. Est-ce que tu es d'accord avec ça?
Ah, j'ai aucun problème à appuyer cette déclaration-là, puis c'est très clair, ne serait-ce que parce que ce qu'il véhicule sur Twitter, partiellement, il ne fait pas que ça. Je le répète, c'est quelqu'un qui joue habilement avec les réseaux sociaux, puis avec ce qui peut contribuer à diviser. Mais les pires théories de complot, là, on parle, par exemple, rappelle-toi, quand il véhiculait la théorie selon laquelle Obama devait pas être président parce qu'il était pas né aux États-Unis.
Oui, mais c'est pas anti-noir, c'est anti-Obama, mais c'est pas...
Non, puis je parle même pas des Noirs, je dis en général. Ce que Trump a fait, c'est de dédouaner finalement des gens qui habituellement, tu sais, c'est ce qu'on, à une autre époque, là, puis je trahis un peu mon âge, bien que j'ai jamais fréquenté ça, j'étais trop jeune, mais il y a une époque où on allait se défouler à la taverne. On prenait un verre, hein, puis on se défoulait, on réglait les problèmes. Mais c'est rendu que les discussions de taverne, ce que moi j'appelle les discussions de taverne, on le sait, puis on l'a répété un peu partout, ben maintenant, ça peut avoir des échos un peu partout sur la planète. C'est un porte-voix extraordinaire qu'on nous donne avec les réseaux sociaux. Et quand le président américain, quand le premier personnage politique en importance aux États-Unis se permet de rediriger ce qu'il y a de pire comme information ou une discussion de taverne, ben effectivement, on se sent dédouané, on se sent plus légitime maintenant d'intervenir. Et je ne dis pas encore là que tous les partisans de Trump le sont. Je dis effectivement qu'il a donné une voix, qu'il a dédouané ce discours-là en récupérant une partie de leur
propos. C'est très bon. Avant, ce qui se passait à taverne restait à la taverne, finalement. Ben oui. Puis là, c'est rendu que la taverne, c'est le discours public, là, national.
Voilà, puis écoute, quand je me retrouve dans l'intimité, là, ça peut m'arriver, et il faut bien se défouler à un moment donné quand il y a des pressions, du stress et de l'attention. La différence, c'est que moi, je m'abstiens d'utiliser les réseaux sociaux, de publier dans ce temps-là. C'est pas tout le monde qui le fait. Puis d'ailleurs, pour discuter parfois avec des gens qui viennent commenter sur le web ce qu'on écrit ou ce qu'on dit, dès qu'on a une conversation entre deux humains, souvent le ton va changer. C'est quand on est tout seul avec l'écran, c'est très clair qu'on dépersonnalise, puis que la relation se fait avec l'écran plus qu'avec la personne qu'on vise. Et déjà, la teneur du discours puis des propos change chez la très grande majorité des gens. Mais ce que Trump fait, c'est un peu de jouer à celui qui voit pas l'humain de l'autre côté et qui relaie, grosso modo, ce qu'il y a de pire. Pas que ça, mais il relaie ça aussi.
Et Luc, tu m'as envoyé hier une vidéo de la mairesse d'Atlanta. Ouais. Tu me dis, regarde ça, et c'était extraordinaire. Une mairesse, ouais. Keisha Lansbottom, une femme noire, afro-américaine, et qui disait aux manifestants qui cassaient, allez-vous-en chez vous, là. Vous agissez de façon honteuse. C'est excellent. Quelle bonne femme.
Ben, tu vois, une des choses, Richard, que je trouvais intéressant dans ce discours-là, puis d'ailleurs, j'ai aimé ta réaction, si je peux la partager, mais tu m'as dit, elle est républicaine démocrate.
Oui.
Et là, je t'ai dit, ben, c'est une démocrate. Moi, je la vois. C'est une possibilité comme colistière pour Joe Biden. Mais c'est de dire que le message qu'elle partage, c'est universel. Il n'y avait pas de couleur politique là-dedans. Et moi, une des choses sur lesquelles je m'interroge depuis le début des soulèvements, dans certains cas, on parle carrément d'émeutes, c'est qui a la légitimité morale pour s'adresser à la population noire, parce que l'indignation, si les débordements sont pas acceptables, puis qu'il faut, bien sûr, on peut pas les laisser piller et mettre à sac, qui peut leur dire que leur colère est pas légitime, puis en plus, comment la canaliser? Et c'est ce qu'a fait Mme Lansbottom de façon très, très habile. Et ce qu'elle a dit, grosso modo, aux casseurs, là, c'est, rappelez-vous, elle est allée force, d'abord, elle a dit, pour ce qui est de la colère, du chagrin, de la peine ou de l'angoisse, là, vous allez pas m'impressionner, je suis une noire, mère de quatre noirs. Et elle a dit, il y a un de mes fils qui était dehors pendant les émeutes et j'ai beau être la mairesse, la police a beau se rapporter à moi, je ne peux rien pour protéger mon fils, je vis les mêmes inquiétudes que vous. Je sais très bien ce qui se passe aux États-Unis. Donc, c'est pas un blanc qui dit ça, c'est pas Joe Biden, c'est pas Donald Trump, c'est pas un policier blanc, c'est une mairesse noire. Et là, elle dit, rappelez-vous où vous êtes. Vous êtes à Atlanta, dans une communauté qui a tout un historique de politiciens, d'activistes, de maire, mairesse, de chef de police noire, et elle dit ce que vous êtes en train de faire, c'est vous allez à l'encontre des enseignements de Martin Luther King. D'abord, pour détruire comme ça, il faudra au moins, quand on manifeste, avoir une véritable prise, hein, avoir un véritable argumentaire, c'est pas ce que vous me démontrez, et vous êtes en train de brûler des propriétés qui, dans certains cas, appartiennent à des Noirs. Vous êtes en train de miner votre propre communauté en vous défoulant de la sorte. Et elle répète, sur un ton assuré, mais dans lequel perce une certaine émotion, rentrez chez vous. Ne faites pas ça.
Elle est extraordinaire. Elle est vraiment... Oui. J'invite les gens à aller voir ça sur YouTube. Keisha Lansbottom, est-ce que c'est la naissance d'une star de la politique nationale?
Ben écoute, elle a assurément, en tout cas, on en avait déjà parlé, mais il faut s'intéresser beaucoup, beaucoup à la politique américaine pour en entendre parler.
Okay.
Au plan national, c'était pas une figure très connue. Mais les démocrates savaient qu'elle était là. Puis on avait déjà évoqué son nom très, très brièvement. Mais comme elle n'avait pas encore, appelons ça comme ça, de star power, elle n'avait pas encore une notoriété, c'était pas une figure nationale, ben ça représentait un grand risque pour Joe Biden. Elle avait ces deux, entre guillemets, handicaps-là. On sait que Biden cherche une femme. Moi, je suis de plus en plus convaincu, surtout présentement, qu'il va choisir une femme noire. Mais Biden cherchait quelqu'un qui avait aussi de l'expérience. On veut rajeunir l'étiquette un petit peu. M. Biden, c'est pas un jeune premier. Donc, on veut rafraîchir un peu ce ticket-là, mais il voudrait aussi quelqu'un capable de le conseiller puis de prendre la relève. Parce que Biden a dit, il a clairement laissé entendre, je pourrais être là juste un mandat. Donc, ça nous prend une relève, puis on voudrait pas perdre l'élection suivante. Pourquoi pas choisir une figure sur laquelle on pourrait déjà miser. Donc, ça semblait exclure pendant un certain temps des politiciennes comme Val Demings qu'on retrouve en Floride, qui a un parcours absolument extraordinaire, ou encore Mme Lance Bottom. Mais le contexte actuel pourrait la favoriser. Ils sont rares, les gens capables de calme, capables de contrôle, mais capables d'avoir autant de crédibilité auprès d'une population qui a toutes les raisons du monde d'être en colère. Je répète, j'excuse en rien des débordements ou des gestes violents, mais je pense être en mesure de comprendre d'où ça vient, puis surtout, moi, je me sentirais pas à l'aise de le faire ici, d'intervenir auprès de la communauté pour leur faire la leçon. Elle est bien placée pour mettre les choses en perspective, elle ou Obama.
Tout à fait, et dans les années 60, le mouvement des droits civiques, ben il y avait des gens qui le portaient, il y avait voilà. Bien sûr Martin Luther King, puis d'un autre côté, il y avait Malcolm X et tout ça, mais on trouve que ce mouvement-là a besoin de quelqu'un pour canaliser leurs énergies, puis écoute, si c'était une femme noire, ça serait extraordinaire. Keisha Lance Bottom, en tout cas, elle pourrait. Et quand tu regardes les États-Unis, là, est-ce que c'est une crisette qu'on vit? Est-ce que c'est le début d'un mouvement de fond qui va vraiment changer les choses, selon toi? Est-ce que tu es optimiste?
Oh boy! si tu avais oublié optimiste, je me prêtais à répondre tout de suite.
Okay. On oublie optimiste.
la crise actuelle, quand on observe statistiquement, c'est au moins aussi gros que ce qu'on a vu dans les années 60. L'année 1968 aux États-Unis, elle a été très, très, très chargée en termes d'événements, en termes de manifestations. Et là, non seulement on a un nombre de manifestations considérables dans plusieurs villes, il y a certains endroits où ça a commencé à se calmer, mais il y en a d'autres où la violence ou la durée des manifestations va en augmentant. Mine de rien, là, on a dépassé une semaine de manifestations sans arrêt. Et je pense que la communauté, et là, bien entendu, j'ai pas de boule de cristal non plus, mais je pense que cette communauté-là en a assez des paroles creuses. Et c'est là où, par exemple, je dis, je pense que Joe Biden va choisir une noire. Quand on regarde, ne serait-ce que chez les démocrates, rappelle-toi, pendant les primaires, on avait Kamala Harris, on avait Cory Booker, on avait Julian Castro, on avait un nombre record de représentants des minorités, puis on s'est retrouvé à la fin avec que des blancs. Non, il y a eu Michael Bloomberg pendant un temps, il y a eu Pete Buttigieg, Bernie Sanders, Joe Biden, des blancs, puis très souvent des blancs âgés. Il y en avait trois qui étaient des septuagénaires dans le lot. Donc, est-ce que Biden peut encore dire on ne retiendra pas les services d'une candidate noire, puis on va se tourner, par exemple, vers Elizabeth Warren? Biden ne peut pas faire, elle ne peut pas que dire je vais améliorer la situation des Noirs puis je vais prendre ça au sérieux. À un moment donné, il faut qu'il y ait des gestes qui accompagnent ces paroles-là.
Il faut que les bottines suivent les babines.
Ben voilà, et je pense que si on revient en arrière ou qu'on maintient le statu quo, les gens le voient bien qu'on n'exagère pas. Hein, quand on parle de poudrière aux États-Unis, là, il y a des tensions sociales énormes. Et des tensions sociales, là, on parle beaucoup des Noirs ces jours-ci. Moi, je pense à la pauvreté en général, qui était l'autre axe, j'ai évoqué Martin Luther King, là, c'était l'autre axe d'intervention de Martin Luther King, c'est solutionner le problème. La misère, la pauvreté, et il y en a des blancs pauvres. Et on l'a dit, dans ces blancs pauvres-là, il y en a beaucoup qui ont voté pour Donald Trump en espérant qu'on les écouterait enfin. Donc, il faut qu'on passe à l'action, puis il faut qu'on agisse.
En tout cas, quand je regarde ça, j'ai l'impression d'être dans Back to the Future, parce qu'écoute, il y a eu le lancement d'une fusée, puis il y a des émeutes raciales. On se croirait dans les années 60.
Non, voilà, c'est là où je te dis, hein, c'est pas quand tu disais ce qu'on a à faire à quelque chose de passager, là, j'imagine que c'est ce que tu sous-entendais par crisette, on a quelque chose de majeur, et si ça suffit pas à réveiller ou à tout le moins se dire, on va de l'avant. Tu vois, au Congrès, pour te dire à quel point la crise est sérieuse, au Congrès, depuis hier, avant-hier, républicains et démocrates s'assoient pour discuter puis prendre des mesures autour de la brutalité policière puis autour du type d'armement qu'utilisent les policiers. De plus en plus, Donald Trump, on avait oublié ça, là, ça n'a pas défrayé la nouvelle, mais il y a une entente entre les Pentagone et les services de police aux États-Unis pour que le Pentagone puisse écouler ses surplus. On vend ça aux services de police.
Mais oui,
et, grosso modo,
un service de police qui ressemble de plus en plus à l'armée, là, qui est militarisé. Voilà. Mais donc, il y a une prise de réflexion, il y a une discussion. En fait, c'est pour ça que faut peut-être être optimiste, même si
ça prend beaucoup. En est un geste. Ce qu'on veut faire, c'est suspendre ce programme-là. Obama l'avait fait, puis M. Trump, en vendant son programme de loi et d'ordre, qui a des échos, qui est entendu aux États-Unis, bien, lui ramène ce projet-là. Mais là, déjà, c'est rare que les démocrates et les républicains travaillent ensemble, s'entendent sur quelque chose, et là, ils disent bien, il faut qu'on regarde ce programme-là. Est-ce que la police doit être déployée puis qu'on ait l'impression qu'on débarque en Irak, en Afghanistan, en Syrie, ou peu importe le théâtre d'opération? Ça n'a aucun sens, surtout quand on regarde bien souvent des manifestants qui sont désarmés. Pas toujours. On a des projectiles, on lance des pierres, mais la plupart du temps, on débarque dans des manifestations pacifistes avec carrément un corps militaire.
Donc, au moins une bonne nouvelle, ça bouge. Merci beaucoup, Luc. La Liberté, merci. On continue à te lire tes blogs dans le Journal de Montréal. Merci.
Une bonne journée, Richard.
Salut, Luc.
Martineau, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré. Politiquement incorrect.
Alors, nous discutons avec le politologue Christian Dufour. Salut, Christian.
Bonjour, Richard.
Qu'est-ce que tu penses de ça, des gens qui disent « Nous autres aussi, on a du racisme systémique ».
Mon Dieu, je pense qu'il y a un côté qui est malsain là-dedans, parce que, bon, tout part des États-Unis. Où c'est le drame, la tragédie, c'est très, très pourri aux États-Unis. Il y a de quoi être dans le désespoir. Surtout que quiconque a une petite mémoire, c'est bien qu'aux États-Unis, il y a quand même eu des efforts pour régler la question raciale, c'est que ce soit la guerre de sécession qui a quand même porté sur l'esclavage, là, Lincoln, tout ça. Dans les années 60, t'as eu les frères Kennedy, t'as eu Martin Luther King, ensuite t'as eu un président noir Obama, t'as eu Michael Jackson, t'as eu Oprah Winfrey. Donc, il y a eu beaucoup d'efforts, d'affirmations, en fait, des Noirs aux États-Unis, et ça n'a rien donné. Et là, maintenant, nous, on subit les contre-coups de ça, et moi, bien franchement, je vois pas ce qui peut résulter de positif d'être influencé par une situation aussi pourrie que la situation américaine. On l'a vu cette semaine. Et ce que je vois, il y a des problèmes. On le dit, on le redit. Bon, il y a des problèmes de racisme au Québec, il y a des problèmes de discrimination, tout n'est pas merveilleux, etc. Mais là, le problème, c'est qu'il y a quand même un amalgame qui est trop fort, qui est malsain. On ne dira jamais assez, c'est pas mineur, ça. C'est qu'il y a une différence fondamentale entre le Québec, le Canada et les États-Unis, parce que nous, on n'a pas eu l'expérience de l'esclavage comme aux États-Unis, qui a été comme fondateur de la nation américaine. Aux États-Unis, le racisme est virulent et violent. Mais là, il y a comme une américanisation des points de référence canadiens et québécois. Justin Trudeau a joué un rôle là-dessus il n'y a pas si longtemps. Tu te souviens quand il y avait eu l'épisode du blackface, là?
Oui.
L'idée qu'il s'était déguisé, là, quand il était plus jeune. Il n'y a pas eu l'espèce de leadership suffisant pour dire « je m'excuse, c'est une folie de jeunesse, je regrette fondamentalement, mais c'est pas du blackface à l'américaine, on n'est pas aux États-Unis ». Il y a comme accrédité ça. Et de plus en plus, c'est ça qui arrive. Et pour venir au racisme systémique, parce que c'est un gros débat, et moi, ce qui me frappe, c'est que c'est comme si, là, les commentateurs que je lis, les chroniqueurs que je lis, ils jouent au sociologue. Bon, jusqu'à quel point est-il un racisme systémique au Québec ou pas? Alors que là, mais ils ne parlent pas des conséquences politiques du fait que si le premier ministre du Québec, qui jusqu'à présent, François Legault, il a été sage jusqu'à présent, il résiste à la pression, il résiste à l'idée de déclarer qu'il y a du racisme systémique au Québec, parce que là, mon gars, le premier ministre du Québec, c'est pas comme Richard Martineau, Christian Dufour ou n'importe qui. Là, il va ouvrir la canne au quota. Il va ouvrir la canne à tout ce qui est sous le multiculturalisme canadien à l'égard du rapport entre les races. Puis il faut pas embarquer là-dedans. Moi, cette semaine, ce que j'ai trouvé qui était systémique, là, c'est l'évacuation totale du français dans la manifestation de dimanche.
C'est incroyable.
Personne n'en a parlé. Moi, je trouve personne. Il y a très peu de gens qui en ont parlé dans les médias mainstream. Comment ça que les commentateurs francophones n'ont pas parlé de ça? Il y avait, à un moment donné, des images aériennes où on voyait la manifestation. Il n'y en avait pas de pancartes en français. Tout était en anglais. C'est pas un hasard. C'est manifestement des gens qui ont des liens avec... Tu te souviens des manifestations contre la pièce slave, là?
Oui.
Robert Lepage. Tu sais, quand on disait qu'il faisait de l'appropriation culturelle, ça se passait beaucoup, beaucoup en anglais. Là, dimanche... Tout ça se passait, il y avait beaucoup de francophones, on s'entend, mais toutes les affiches officielles qui sont fournies par des organisateurs étaient en anglais. Il n'y a pas de hasard là-dedans, mon gars. Il y a comme, sur le plan symbolique, il y avait comme une gifle au Québec, surtout que la majorité des Noirs du Québec sont francophones.
Ben oui, c'est les Haïtiens.
Je parle. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un peu décourageant tout ça, parce qu'il y a beaucoup de beaux sentiments, mais qu'est-ce qui peut découler de positif de la merde américaine ici, vraiment, là, fouille-moi.
Et ce qui était décourageant aussi, c'est de voir Justin Trudeau hier qui aurait dû justement dire, ben, au Canada, on n'est pas comme aux États-Unis. Au contraire, il s'est auto-flagellé encore une fois.
Ouais, mais écoute, Justin Trudeau, là-dessus, il avait fait le même genre d'erreur à l'égard des Autochtones. C'est quand il avait dit qu'il y avait eu un génocide.
Oui, oui.
Est-ce qu'il faut réaliser, on peut débattre longtemps jusqu'à quel point le racisme qui existe, bon, est systémique ou pas. Bon, c'est clair que c'est pas juste toujours individuel. Il y a quand même des habitudes, des attitudes. Mais ce qui semble être oublié par les commentateurs, qui me semble devraient faire de l'analyse politique, là, c'est pas des sociologues, c'est qu'il y a des conséquences politiques qui découlent du fait qu'un premier ministre dise « ma société ». Société fait preuve de racisme systémique. Moi, je veux pas de quotas. Tu sais, je veux pas qu'on s'aligne sur les notions américaines, parce que ça va nous mener nulle part, les notions américaines.
Mais tu sais, les États-Unis, ils ont un héritage, ils ont une histoire, ils ont une culture qui est différente des nôtres. T'sais. Dire le Canada, c'est comme les États-Unis, c'est comme dire la Suède, c'est comme l'Espagne, ça n'a rien à voir, c'est un autre pays.
Oui, surtout dans ce dossier-là.
Ben oui.
Parce que dans ce dossier-là, rappelons-le, le racisme aux États-Unis, il est virulent, il est violent. Il est institutionnalisé. Je veux dire, ici, on n'a pas ça.
As-tu déjà été arrêté, toi, pour excès de vitesse aux États-Unis? Moi, j'ai été arrêté pour excès de vitesse aux États-Unis. Écoute, m'a dit, les policiers font peur en Christie, là. C'est pas nos polices à nous autres, là.
Si tu as vu dans la presse de ce matin, il y a un article intéressant d'un avocat, en fait, qui travaille, je pense, pour les Nations Unies, en tout cas, qu'on sait, et qui vient de Québec, puis qui rappelait quand il était jeune à Québec, il demeurait dans un quartier populaire, j'imagine que ça devait être Saint-Sauveur, là, ou Saint-Roch, la base ville, puis que là, il n'y avait vraiment pas de noir, il n'y avait jamais vu de noir. Puis il dit à quel point la police était rough à l'égard des milieux populaires. Il y avait comme une espèce de dynamique haute ville, basse ville, ce qui disait qu'il peut y avoir des mauvais comportements de la police qui n'ont pas toujours lié au racisme. C'est-à-dire, l'idée n'est pas de nier le racisme, mais si on parle un peu des États-Unis, le frère même, en fait, du noir qui a été tué, là, a appelé au calme. Qu'est-ce qui peut résulter de bon, d'émeutes comme ça? Puis je comprends qu'au départ, il y a des manifestants pacifiques, mais il ne faut pas être naïf non plus. Puis pour venir au Québec, moi, là, dimanche, là, le fait que tout s'est passé en anglais, il y a un côté troublant là-dedans. Il y a vraiment un côté très, très troublant là-dedans. Il y a une espèce de refus du Québec. Il y a une espèce, comme si on ciblait le Québec en voulant dire vous êtes une société francophone qui ne vaut pas la peine. Et ça, comment ça qu'on n'a pas plus parlé de ça que ça dans les analyses?
T'as raison. Il y a Gilles Proulx, j'ai entendu parler de ça, mais c'est à peu près tout, là. C'est vrai.
Il y a Boc-Côté, je pense qu'il en a parlé, oui. M. Boc-Côté. C'est comme si les gens n'osaient pas que le Québec francophone... aussi, c'était un peu stupide, parce que même si les commentateurs n'ont pas parlé, puis souvent ils sont bon chic, bon genre, puis ils sont très dans le racisme systémique, mais le vrai monde... Les francophones québécois, ils les ont vus, les images.
Ben
ça
ne
les a pas rendus très sympathiques pour la manifestation. Non.
Tu sais, Robert Charlebois chantait dans les années 70, « Vivre dans ce pays, c'est comme vivre aux États-Unis ». On assiste à l'américanisation des esprits. Je sais bien là, qu'on regarde beaucoup de séries américaines, puis on aime ça aller dans le Maine, à Ogunquit, puis tout ça. Sauf qu'on n'est pas des Américains, mais on dirait qu'on pense qu'on vit dans le même pays qu'eux autres. C'est bizarre,
c'est
ça.
C'est très juste que tu dis là, et c'est profond, ça.
Oui.
Moi, je pense que c'est un processus très profond. Ça fait longtemps, moi, que je pense ça. C'est que, au fond, le Canada a une identité faible par rapport aux États-Unis. Hein. La majorité des Canadiens sont des anglophones. Au fond, la partie qui résiste le plus, c'est le Québec, parce que le Québec est plus francophone. Mais même au Québec, on le voit cette semaine, à quel point on est vulnérable par rapport aux paramètres américains. Puis aussi par rapport au multiculturalisme canadien. Quand Justin Trudeau, en fait, dit oui, il y a du racisme systémique au Canada, lui, il n'y a pas de problème avec lui. Parce que lui, ça correspond à ses schèmes, à ses points de référence, ça correspond au multiculturalisme tout azimut. Mais quand je vois un tas de commentateurs au Québec parler du fait, oui, c'est évident qu'il y a racisme systémique, mais sans voir les conséquences politiques de ça, si le premier ministre le dit. Cela dit, rendons à César ce qui appartient à César, je ne sais pas si tu trouvais ça aussi, mais hier, Justin Trudeau, son long silence. Là.
Qu'est-ce que tu en penses de ça?
Moi, je trouve ça très réussi.
Ah oui?
Ça, j'ai trouvé ça.
Donc, selon toi, c'était voulu là, qu'il garde le silence longtemps comme ça? Là.
Écoute, au point de départ, c'était peut-être pas voulu. Tu sais, parce qu'on lui a posé une question, puis là, il est quand même assez intelligent pour réaliser que là, la réponse est importante, hein, tenant compte des relations qu'on a avec les États-Unis. Donc, il a commencé par hésiter, puis peut-être que le professeur de théâtre, qu'il a déjà été, tu sais, est revenu, puis lui a fait réaliser que de tarder à répondre, il y avait comme un message là-dedans,
oui.
Que ça soit perçu de façon négative aux États-Unis par.
Mais c'est vrai que tu rappelles qu'il est prof de théâtre, parce qu'on t'apprend ça au théâtre qu'il y a des silences qui en disent des fois plus que certains
on
mots.
On le sait, hein? C'est un silence vaut mille mots, je sais pas, j'ai pas trop. Mais on critique souvent Justin Trudeau, mais ça là-dessus, j'ai trouvé que c'était vraiment chapeau. C'est vraiment quelque chose de magistral, puis ça fait le tour du monde. Donc, pour une fois, c'est comme si le Canada s'affirme de façon silencieuse ou négative. C'est silences qui font parler.
C'est vrai, tout à fait juste. Merci beaucoup, Christian. Merci. Bonne semaine. Bon week-end.
Bonne semaine à toi aussi. Bye.
Salut. Christian Dufour, politologue.
Richard Martineau.
Politiquement incorrect.
Cube Radio.
Cet automne, c'est le deuxième anniversaire de Cube Radio, donc je pense qu'un bilan s'impose. Est-ce que c'est un succès? Est-ce que ça a fonctionné, ce défi-là? On va en parler avec Jean-Nicolas Gagné, qui est directeur général de Cube Radio. Salut, Jean-Nicolas.
C'est un succès grâce à toi, Richard.
Oui, ben oui. Non, mais il fallait être fou quand même, lancer une radio numérique. Les gens avaient des habitudes. Les gens, tu sais, tu rentres dans ton auto, t'écoutes telle radio et tout ça. Et là, on arrive avec une nouvelle offre. C'était pas donné. C'était pas gagné d'avance.
Au début, il y avait beaucoup de pédagogie à faire. Je pense là, que les gens... dans le reste du monde, peut-être que le projet de la radio numérique puis les balados, les podcasts, ça avait fait plus de chemin qu'au Québec. Mais depuis un an et demi, Richard, les gens qui écoutent maintenant des balados, qui écoutent la radio numérique, là, ça a vraiment augmenté à un rythme effréné.
Peux-tu te dire, moi être franc, là, ça me fait penser quand j'ai commencé à voir, ils sont venus me chercher puis on dit on lance un hebdo gratuit. Mais je dis, ça marchera pas. Un hebdo gratuit, vendons. Puis j'ai embarqué là-dedans, mais je dis ça va durer 2 mois. Ben, tu sais, ça va être 2 mois le fun, finalement.
T'as toujours été un visionnaire, bref.
Ben, non, j'en. Et la même affaire, quand vous m'avez approché pour Cube, je dis, voyons donc, je dis, ça fonctionnera pas, là, radio sur Internet. On va se planter. Ça va être drôle, faire ça 3 mois. Bon, on passe à autre chose. Puis ça pointe-tu?
Ben oui. Écoute, Richard, aujourd'hui, on a sorti des chiffres aujourd'hui pour montrer aux gens quelle a été l'évolution de la radio depuis son lancement. Je dirais que on n'y croyait pas, là, mais à chaque mois, juste en réécoute, là, on fait 1 million de réécoutes par mois depuis le début de l'année. Et la période de sondage, là, on s'est dit, on va jouer un jeu, on va faire la même exercice que les radios traditionnelles. On va prendre les semaines de sondage, puis on va nous aussi sortir nos chiffres. Puis t'as vu, ce matin, on est à 1,3 million d'auditeurs pour Cube Radio.
C'est excellent. Est-ce que les gens... Non, c'est très bon. Moi, ça me surprend beaucoup, ces chiffres-là. Est-ce que les gens nous écoutent live, en direct, comme ils écoutent la radio ordinaire, ou ils ont tendance à nous écouter plus podcast, plus en réécoute, en rediffusion?
Mais tu disais tantôt, les gens arrivent dans leur char puis ils choisissent la radio, c'est simple. Mais de moins en moins, les gens... veulent écouter quand ils ont le temps de le faire, tu comprends? À la télé, là, qu'est-ce que les gens font? Ils vont sur du vidéo sur demande, ils vont sur Netflix, ils vont sur Illico, ils vont sur TVA en rattrapage. De plus en plus, les jeunes aussi, il ne faut pas se le cacher, là, les jeunes, leur style d'écoute, là, c'est plus quand ils sont disponibles. Là. C'est pas à telle heure.
En fait, les seules affaires en direct à cette heure qui pognent, c'est le sport.
Exact. Même encore, je te dirais là, qu'il y a un paquet de monde là, qui commence à regarder. Ils arrivent une heure plus tard, puis ils enregistrent les sports, puis ils écoutent, puis où c'est rendu. Là, là. Je te dirais que l'audio sur demande, là, c'est vraiment le marché qu'on voit se développer le plus. Là. Parce que oui, il y a des gens qui nous écoutent en direct, puis on les remercie, puis on leur demande d'être encore plus nombreux. Mais les vrais indicateurs de croissance pour notre radio, c'est les gens qui écoutent sur demande. C'est-à-dire qu'ils vont sur leur application, ils vont sur notre site Internet, puis ils disent « Ah, je vais écouter Benoît Dutrisac puis Mario Dumont ce matin. »
Donc ça, ça te demande des émissions, ça sera pas les émissions qui... Ça change aussi la façon de percevoir le rôle de notre radio. C'est-à-dire, on n'est pas là pour réagir à chaud, en direct, à des affaires qui se passent. C'est plus avec un certain recul, une certaine réflexion.
Je te dirais que notre souplesse nous permet les deux. C'est comme si on peut, à tout moment, arrêter notre programmation puis parler de ce qui se passe, comme toute radio traditionnelle, puis comme tout média de proximité, comme la radio le fait si bien. Mais en plus, on a un volet qui est une bibliothèque audio qui grandit, qui un jour va être infinie. Tu vas pouvoir te lancer dans la bibliothèque de Cube Radio puis n'avoir pendant des jours à écouter des podcasts sur ce que t'aimes, de ton animateur préféré. On a comme une offre double qui est une offre de radio en proximité qui est une programmation de jour qui n'a rien à envier par ailleurs aux autres stations de radio du paysage radiophonique québécois. Mais en plus, nous, depuis le début, ce qu'on fait, c'est de développer une offre sur mesure.
Mais ça prend de l'argent. Fait que c'est gratuit, écouter Cube Radio. Il faut des annonceurs pour pouvoir vivre. C'est le nerf de la guerre. Ça, c'est que, bon, il y a eu la pandémie, bien sûr, qui est rentrée dans tous les médias. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir une lumière au bout du tunnel?
Ben, c'est vrai qu'on le dit. Là, t'sais, aujourd'hui, les chiffres sont très impressionnants. Là, on a été, pendant la crise, 1,3 million d'auditeurs depuis le mois de février à nous écouter. Là. Et c'est vrai là, qu'il y a une grosse croissance d'écoute.
Toi, tu vas partir avec ces chiffres-là, là, puis tu vas montrer ça à des annonceurs. Évidemment. Regardez, là. On va t'écouter, là.
Exact. Puis, tu sais, il y a un bout aussi où je te disais qu'il y avait de la pédagogie qui a été faite au départ, mais elle n'est pas finie. Tu sais, nous, on fait ce qu'on peut pour promouvoir notre produit, puis on se dit que c'est l'avenir, puis un jour, dans notre char, tout le monde va avoir de la radio numérique. Ça va être aussi facile, ça va être aussi accessible que syntoniser la radio FM. Mais il y a un bout où la pédagogie n'est pas finie. Il faut montrer là, aux annonceurs, il faut leur montrer qu'il y a des bons résultats. T'sais, nous, on a des. On a une Nissan Gabriel qui nous a suivis toute l'année. On a un paquet d'autres commanditaires qui prennent la chance avec nous de d'annoncer chez nous, de mettre leur argent chez nous. Puis nous, on les encourage, on leur montre leurs résultats, on leur dit regardez comment que c'est précis en plus, là, parce que nous, moi j'ai l'infime conviction en plus que c'est les chiffres qu'on donne ce matin, là, 1,3 million d'auditeurs. C'est sous-évalué, là, parce qu'on n'a pas le contrôle de tous les feeds, premièrement, qui diffusent notre radio, et ça, c'est des branchements uniques. Ça veut dire qu'il y a peut-être plusieurs personnes qui se branchent par branchement, alors que les radios traditionnelles, eux, ils multiplient, ils font des échantillonnages, puis ils multiplient le nombre de... Nous, là, c'est des minimums, puis c'est des résultats que les gens peuvent obtenir sans aucun doute.
Parce que les autres radios traditionnelles, chaque fois, ils ont leur sondage, leur BBM, leur façon de calculer l'écoute, et c'est ça que les annonceurs, peut-être, disaient, comment vous allez calculer
le nombre de... C'est un vieux confort, là, mais c'est nous, c'est beaucoup mieux, là, tu sais.
Ben oui. Et bon, Cube Radio, c'était un concept. Il y a Cube Musique qui s'est attaché à ça. Cube Radio, Cube Musique, qui est comme le Spotify québécois qu'on dit, là. Vous avez d'autres projets, là, qui va se greffer après Cube, non?
On n'a pas, écoute, moi, je pense que depuis le début, le succès de Cube Radio amène l'entreprise à développer d'autres produits. Tu sais, je dis souvent que Cube est la première brique d'une plus grande maison. Tu sais, c'est plus un souhait, là, puis tu sais, je l'espère. Là, aujourd'hui, tu sais, il y a quelques temps, on a lancé Cube Musique. Puis on a vu le succès immédiat de Cube Musique. Là, Cube Musique, c'est entré dans le paysage québécois comme une application de musique en streaming qui connaît déjà une grande popularité puis une acceptation auprès des artistes, auprès du milieu. On est très fiers de ça. Puis je vois pas pourquoi on s'arrêterait là.
Et Spotify veut se lancer dans les podcasts aux États-Unis, là, qui veut devenir le Netflix des podcasts américains. On pourrait, nous autres, à Cube Radio, devenir justement le Netflix des podcasts francophones.
Regarde, tu le dis, là, c'est mon objectif, là, c'est que nos produits audio deviennent tellement attrayants qu'on devienne une espèce de Netflix de l'audio pour les Québécois, qu'on leur permette de rentrer dans notre univers audio, puis qu'ils écoutent nos produits et qu'ils s'y retrouvent, là, tu sais. Puis tu le dis, Spotify en ce moment, et ils sont pas les seuls, mais Spotify en ce moment font l'acquisition de podcasts à tous les jours. Joe Rogan, qui est sans doute un des podcasteurs les plus connus.
100 millions, il vient de signer 100 ben ouais. millions.
Fait que tu sais, au Québec, on est toujours un petit peu en retard, peut-être, parce que le marché anglophone, étant donné le bassin, puis l'audience se développe beaucoup plus vite. T'sais, les demandes sont plus élevées, puis les revenus arrivent plus vite. Donc, notre milieu francophone, des fois, fait en sorte qu'on attend de voir ce qui se passe à l'étranger pour s'y lancer, mais... Il ne faut pas prendre trop de retard au Québec. Là, le monde du podcast aux États-Unis, en Europe, là, ça explose. Les gens veulent de l'audio sur mesure, des podcasts événements. Puis Joe Rogan, qui vient de signer un contrat de 100 millions avec Spotify, en est la preuve.
Ben, tu sais, quand tu lances un nouveau projet, là, c'est tout le temps une question de timing. Il ne faut pas que tu sois trop en avant de la vague, parce que ça va prendre du temps avant que les gens embarquent. Puis il faut pas que tu embarques quand la vague est déjà prise, parce que c'est trop tard. Puis c'est vraiment particulier. Cube Radio, c'est arrivé juste au bon moment.
Ouais.
Et ça, là, c'est un alignement des planètes incroyable.
Ouais,
parce
ouais.
que tu sais, quand tu lances un projet de même, tu te croises les doigts en disant « Es-tu trop tard? Es-tu trop tôt? »
Puis je ne vais pas te lancer de fleurs à mon boss, mais tout ça est quand même germé de l'idée dans la tête de Pierre-Carl Péladeau, qui voyait ces mouvements audio se profiler. Et il y avait une vision. Puis moi, quand j'ai vu la vision, bien, j'ai tout de suite su qu'on était exactement dans un timing où la radio avait toutes les conditions pour connaître du succès.
Tu sais, la nécessité, la mère de l'invention. Pierre-Carl était brillant parce qu'il y a des règles au CRTC où tu n'as pas le droit d'avoir 3 médias. Tu n'as pas le droit d'avoir une télé, un journal et une radio. Fait que mais c'est une radio numérique, c'est pas la même affaire.
On va dire le monde numérique va chambouler, d'après moi, toutes ces règles à court
ben
ou à moyen terme.
Là. Complètement. Ben, all right. Gâteau avec de la bougie.
Mais je veux dire, on n'est pas. On célébrera pas exagérément. Là, on n'est pas triomphaliste. Là. Ce sont des bons résultats. C'est des résultats qui sont, à mon avis, comparables avec bien des radios au Québec. Puis je pense qu'on a toutes les raisons de se réjouir. Cube Radio est là pour rester. C'est une radio qui rentre déjà dans le quotidien des gens. Puis je te remercie, Richard. Je remercie toutes les équipes qui travaillent à la réalisation des émissions.
Je suis très fier d'être ici. Je trouve les gens avec qui on travaille, c'est des jeunes, le fun, allumé, trippant. Je suis super heureux chaque jour que je rentre ici. Gros sourire d'en face. Très
fun. Ça marche. Bon, mais
très agréable.
Mieux.
Merci beaucoup, Jean-Nicolas Gagné. Puis bravo. Super.
Merci.
Est-ce qu'on passe au tournoi des PM?
Ah, mais je peux-tu rester pour parler
avec Antoine? Oui, donc.
Je vais rester avec ça.
Antoine, comment ça va?
Vive le Québec libre!
16 premiers ministres en liste. 16 histoires différentes. Le tournoi des premiers ministres.
Antoine Bouchard, Lucien Bouchard contre Robert Bourassa. Ça, c'est métal contre métal.
C'est ça, confrontation beaucoup plus corsée en deuxième ronde du tournoi des PM. Quand même, hier, je regardais les résultats entre René Lévesque et Jean Lesage, puis tu sais, 88% contre 12 pour
ben
René
oui,
Lévesque.
Puis Antoine, salut, tu m'entends?
Oui, Jean-Nicolas, oui.
Ben oui, c'est drôle.
Hier,
parce que...
on s'en parlait, ben oui. Puis Jean-Nicolas disait « Oh! » C'est plus fort qu'on pensait quand même pour René Lévesque.
C'était ton poulain, ça, en plus, Richard?
Ben oui.
C'est le poulain, Richard, puis il s'est fait traverser.
Donc, oui, c'est Jean Lesage. C'est Jean Lesage qui a gagné.
Hier, il a dit qu'il voterait René Lévesque, puis il y a deux semaines, il a dit qu'il voterait... Ou non, la semaine passée, il a dit qu'il voterait Jean Lesage. Donc, il est coquin, là, il est difficile à suivre.
Ben oui, c'est vrai, hein, c'est vrai. Je me suis complètement contredit, finalement, hier. C'est parce que la loi 101 a penché dans la balance. C'est ça. Mais ben là, Lucien Bouchard contre Robert Bourassa.
C'est dur. Lucien Bouchard, écoute, 1865 jours au pouvoir, alors que Robert Bourassa, combien? 5341 jours. Donc, c'est sûr que Robert Bourassa a eu plus de temps de faire de choses, et il en a fait énormément. Écoute, l'assurance maladie, hydroélectricité, les grands barrages, le français langue officielle en 1974, la charte des droits de la personne du Québec. Bon, sur le plan constitutionnel, il y a quelques ratés. Victoria, tentative de Meech, tentative de Charlottetown. Il a fait mine à un moment donné de vouloir faire la souveraineté, puis il a roulé bien des souverainistes dans la farine avec ça. Mais c'est vraiment un premier ministre marquant du Québec. Quant à Lucien Bouchard, lui, assurance médicaments, garderie à 5 $ Sur le plan constitutionnel, il y a une victoire quand même. Hey, c'est quoi? L'amendement pour les commissions scolaires linguistiques, donc le début de la laïcité, on pourrait dire. Puis, évidemment, il y a eu son obsession du déficit zéro, ça qui est très contesté, mais en même temps, qui est salué parce que ça a permis après ça de lancer l'action du Québec sur et de la gestion du Québec sur des bases plus saines.
Mais c'est un gros quart de finale quand même.
Mais j'aime beaucoup Lucien Bouchard. J'ai eu le privilège de le rencontrer à quelques reprises. C'est un homme extraordinaire. Le genre de gars, quand il rentre dans une chambre, la vibe change là, totalement. Mmh. Un charisme incroyable. Mais reste que quand même, là on parle de premier ministre, reste que l'héritage de Robert Bourassa avec l'abbé James, c'est assez incontournable. Là.
Oui, puis ça, c'est visionnaire parce qu'aujourd'hui, si on électrifie les transports plus facilement, c'est grâce à lui. Donc, tu votes pour Robert Bourassa?
Monsieur Bourassa.
OK, alors...
Jean-Nicolas, là, Jean-Nicolas n'est pas fier de moi, là.
Non, mais c'est pas un choix facile, même si Lucien Bouchard est resté quelques temps, surtout comparativement au bilan de Robert Bourassa. Il reste que Lucien Bouchard, il a marqué, en tout cas, mon époque. Là,
Ben, c'est surtout la crise du verglas, hein, vraiment. Ouais,
mais il a failli aussi faire passer le référendum. T'sais, s'il n'avait pas été dans la campagne, ça, il n'était pas premier ministre, vous allez me dire, là, mais quand même... C'est un an avant qu'il devienne premier ministre.
Mais sa démission aussi, là, moi, c'est une des démissions politiques dont j'ai le souvenir le plus clair, là, où j'étais quand je l'ai appris, puis tout ça. Là.
Quand il a sacré le camp,
qui était une surprise totale.
C'était une démission sur une vraie question de principe, puis qui n'était pas évident pour lui par après. Là,
T'en souviens-tu quand Pierre-Éliott Trudeau avait traité Bourassa de mangeux de hot dog?
Ouais, ça fait très... Mais j'étais petit. Là.
OK. Il avait traité de manger de hot dog. Ça avait marqué.
Oui, il y avait une allusion un peu douteuse aussi. Là.
Oui.
Merci, Antoine. Bien sûr, on va t'écouter demain les résultats de ça dans la rencontre. Mario Dumont, Benoît Dutrisac. Puis on t'écoute, bien sûr, à la haut sur la colline.
Oui.
Merci. Jonathan?
Il y a 1 331 443 personnes qui, lorsqu'ils t'ont entendu dire « Aïe, je me suis contredit », leur mâchoire est tombée à terre. C'était la première fois. C'est la première fois qu'ils disaient « Voyons, Richard, Jean Martineau qui se contredit. » Ben voyons.
Ben non, mais là-dessus, c'est rare que je me contredis quand même. Ça prend du temps. Mais là, je me suis contredit sur une courte période de temps.
Oui. Hey, je veux profiter de la présence de notre patron pour dire que à tous les jours, là, Jean-Nic... salut, boss.
Salut, Joe.
À tous les jours, le couple Martineau du Rocher m'ampute environ 12 minutes.
Ben oui, je t'entends. Je t'entends.
Okay. Attends une minute.
Je fais rien.
Attends une minute, là. Puis Benoît
parce
aussi.
Parce qu'il y a Richard qui me gruge 6-7 minutes.
Benoît gruge
puis,
mon temps.
Puis depuis
temps
la pandémie, il faut que je finisse 5-6 minutes plus tôt.
Bon, là, les enfants.
Pour faire le bulletin. Fait que là, le couple du Rocher Martineau me coûte un segment par jour.
Les enfants, là, je vous rappelle que.
Benoît rentre dans mon show.
Oui,
aussi,
oui.
Là.
Oui, mais c'est parce que vous êtes bons ensemble. Je trouve ça drôle de vous entendre. Puis je dirai rien juste à temps qu'il y en a un qui pète les tires du char de l'autre. Fait que...
Je veux pas la Montréal.
Mais moi, j'aime les moments où tous nos animateurs communient.
Mais pour de vrai, là, c'est le fun, ça. Tu sais, autant quand Richard fait son segment avec Benoît, le segment du Trisac du Monde, moi, qui est le moment incontournable, je trouve, de la journée à Cube, là, même s'il y en a d'autres, évidemment, excellents. Richard puis moi, notre chimie, qui sincèrement opère depuis des années, là, tu sais, c'est le fun. Je trouve que ça rend ça sympathique.
Ben oui, moi, tant que personne se chicane, je me croise les doigts. On va regarder ces segments-là. Mais...
Arrête une bonne chicane d'animateur.
C'est sûr.
Tu veux nous parler de quoi, mon cher?
Oh, je sais pas, là. En ouverture de show, on va, Maud et moi, analyser le succès incroyable de la campagne de recrutement du gouvernement du Québec pour aller chercher 10 000 préposés aux bénéficiaires. On s'est rendu à plus de 60 000 applicants. Et là, déjà, Maud, qui a le nez sur le terrain, là, qui parle à des gens, on se rend compte qu'il y a des questions qui se posent.
Maud, il faut qu'il apparaisse sa photo, d'ailleurs. Hein? J'ai vu la pub, là. T'es tout seul. Maud n'est pas sa pub.
T'as raison.
Elle est co-animatrice. Vincent, il apparaît sa photo, puis il est co-animateur à la Mario Dumont.
Là, t'as raison, c'est bon, ça. Okay. Mange la marde un peu, c'est une bonne idée.
OK.
Alors... Tu es content d'être venu en ondes, Janine?
Non, on n'en a pas de bonne photo de Maud. Il va falloir faire une séance de photos. Je suis allé sur ton Facebook, j'en ai pas trouvé de bonne.
Fait que bref, on va décortiquer ce programme-là et les questions que ça soulève. On va en parler d'ailleurs avec la CSN qui se pose aussi des questions. Une bonne intention, c'est une bonne intention du premier ministre, mais est-ce qu'on va créer des effets pervers?
Tout à
c'est
fait.
La question qui se pose.
Non, mais c'est un beau problème quand même. Au moins, il y a plusieurs gens qui ont répondu à l'appel. On va t'écouter justement avec Maude Boutet. Merci beaucoup, Maude. Merci, Hugo Veilleux à la recherche. Merci, Achille Moinet à la console. On se reparle demain à 8h. Passez une excellente journée.